Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut François.
Salut.
Bah écoute, merci infiniment de prendre le temps aujourd'hui. Je suis honoré déjà de te rencontrer parce que j'ai rencontré beaucoup d'athlètes, mais toi, il y a un petit attachement, je pense, particulier quand on fait les sports d'endurance et qu'on est fan d'intérieur sport, comme moi depuis gamin, de te rencontrer en vrai. Et puis, je suis très heureux d'avoir fait le déplacement aujourd'hui jusqu'à toi, de la manière la plus écologique possible, parce que je suis venu en train, puis en Blablacar jusque-là. Et voilà, donc je suis vraiment honoré. Merci infiniment pour le temps que tu m'accordes.
Avec plaisir.
Et j'en profite aussi pour faire une petite bise à Jean-Michel aussi, que j'apprécie beaucoup et qui répond toujours à mes petits messages de manière très sympathique. Comme je te l'ai dit, il y a une tradition sur le podcast et beaucoup d'auditeurs sont impatients de te l'entendre dire. C'est de commencer un peu par l'enfance, savoir un petit peu qui était le François plus jeune et de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Eh ben, quel était le François quand il était plus jeune? J'ai rien à dire, un enfant à peu près normal, hein, j'espère. un poil étourdi, qui aimait surtout, je crois, être dehors et puis bon, qui aimait bien faire toujours beaucoup de sport. Après, le premier souvenir, si on peut dire entre guillemets sportif, que j'ai, ou je sais pas si c'est les photos un peu qui me rappellent ça, mais c'est vrai que je crois que c'est un peu la première fois que j'ai eu le droit de faire le tour du lac d'Aigbelette, là où mes parents habitaient.
Okay.
Et voilà, j'avais la chance du coup d'apprendre le vélo avec mon grand-père, et voilà, j'ai appris assez vite, enfin on va dire que dès que j'enlevais les roulettes, en gros j'avais plus que cette idée-là en tête d'avoir le droit de faire le grand tour comme un peu comme les grands, et c'est vrai que bah du coup assez vite ils m'ont lâché un peu la bride. Et j'ai eu le droit d'aller faire le tour du lac, et c'est vrai que c'est un peu pour moi le souvenir un peu marrant, un peu kiffant de mon enfance, quoi.
Ok, ça c'est marrant. Tu sais que moi j'ai appris à faire du canoë sur le lac d'Aigbelette.
D'accord.
Parce que c'est un lac particulièrement plat sur lequel aucun bateau.
Souvent les lacs sont plats, mais.
Ouais, mais là il y a aucun bateau. Tu peux bien me reprendre. J'aime bien. Si on part sur des blagues, ça me va très bien.
Non, mais ouais, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de bateau à moteur. Et du coup, bah, ouais, quand j'étais petit, d'ailleurs, il y avait les championnats du monde d'aviron en 97. Et c'est vrai que c'est un lac qui est. Bah, du coup, il n'y a pas beaucoup de vent. Il est assez doux. Et c'est vrai que. Du coup, c'est pour la pratique de l'aviron et de ce genre de sport, du canoë, je pense que c'est assez appréciable.
T'en as fait un peu?
Et bah avec l'école, ouais, enfin j'étais au collège juste à côté, c'est vrai que du coup bah on avait souvent accès un petit peu à la base de loisirs, on a eu pas mal de formations d'aviron, mais j'ai jamais fait en tant que en club l'aviron, ouais.
Ok, d'accord.
Mes parents voulaient pas que je pratique tous les sports du monde, donc je devais me cantonner à certains sports, quoi.
Ouais. Ils t'ont mis à quoi?
Et bah j'ai pratiqué un peu pas mal de sports, un peu on va dire collectif, tout ça, mais le fil rouge un petit peu, ça a été l'athlétisme, où voilà, j'ai été très très vite à l'école d'athlétisme de Novalaise là, et puis j'ai toujours gardé cette discipline là tout au long de ma vie, quoi.
Okay.
Donc c'est un peu le fil rouge, un peu le fil rouge pour moi, ouais.
Ok, d'accord. Qu'est-ce qui t'a plu dans l'athlé? Tu vois, je me posais la question. Là, moi, j'ai deux petits garçons. Forcément, je vais les mettre à l'athlé parce que j'estime que c'est hyper complet et que c'est très très bien pour développer ses qualités cardio-respiratoires, en tout cas jeunes. Mais il y a beaucoup d'enfants qui trouvent qu'il y a peut-être un manque de jeu ou un manque de fun. Toi, qu'est-ce que tu y as trouvé?
Et ben moi, c'est toujours été le lancer du poids qui m'a passionné.
T'as tout gardé. Hein.
Non, après, bah, c'est vrai que le côté ludique, on peut le voir un peu comme ça, mais d'un autre côté, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu moins ludique que certains sports co, quoi, qu'on met aujourd'hui énormément en avant. Mais par contre, je pense que le côté lassitude, il est vraiment pas présent dans ce sport, parce que justement, les écoles d'athlètes, elles se font de... Moi, j'en avais que pour la course à pied, quoi. Clairement, ce qui m'amusait, c'était un peu l'endurance, c'était essayer de faire le footing le plus long, d'aller avec les grands faire la boucle la plus longue plutôt que la petite boucle, et c'était ça que j'aimais bien. Moi, j'aimais retrouver un peu le goût de l'aventure, quoi, de voir s'adapter. Donc, c'était plus les crosses, tu vois, le 3000 mètres steep dès que j'ai pu faire, parce qu'il y avait des barrières, il y avait un effort à gérer. Ouais. C'était surtout, voilà, les courses de village, les petites courses en montagne, les trucs comme ça. Mais voilà, nous, on nous forçait à pratiquer toutes les disciplines. Et puis, quand t'es petit, bah, t'as les triathlons, t'as les pentathlons, ouais, t'as les interclubs, t'as tous les trucs. Et donc, c'est vrai que, du coup, bah, on nous forçait vraiment à pratiquer toutes ces disciplines-là. Donc, je pense que pour un enfant, c'est pas mal. Déjà, ça permet d'être assez complet. Ça permet de comprendre un petit peu toutes les disciplines. Et donc, à travers ça, bah, t'apprends les règles, t'apprends la façon de pratiquer, t'apprends des gestuels, t'apprends des automatismes, des éducatifs. T'apprends aussi que bah tu sais pas forcément celui qui est meilleur en demi-fond qui va être le, enfin tu vois, il y en a pour tout le monde aussi, donc ouais, voilà, ça t'apprend aussi un petit peu à être humble, parce que du coup bah tu peux pas être le meilleur partout, et donc ça je pense que c'est quand même pas mal, ouais. Et donc voilà, donc après ouais, je pense que c'est un très très bon sport. Après voilà, bah il y a pas des clubs d'athlètes dans tous les villages non plus. Mais non, je pense qu'il y a... Enfin, en tout cas, je regrette pas, moi, d'avoir pratiqué un petit peu tout ça. Et puis, bah, après, voilà, dès que t'arrives un petit peu au collège, tu peux déjà un petit peu plus te spécialiser, quoi, normalement, ouais, quoi.
Et, où est-ce que tu, t'avais des résultats, toi, au début? Où est-ce que...
Bah, j'avais des résultats plus ou moins, jamais eu un haut niveau, on va dire, en athlé, quoi. Je faisais des perfs, je crois que les classements, ça va être N3 ou des choses comme ça, là, sur ce type. Voilà, mais c'était pas, voilà, j'y allais surtout pour les copains. J'y allais aussi, ouais, tu vois, pour faire les équipes au cross. On essayait, ouais, voilà, on se qualifiait tous les ans au championnat de France de cross ou les choses comme ça. C'était ça notre objectif. Mais voilà, j'ai jamais performé comme ma femme l'a fait ou mes copains l'ont fait, tu vois, sur des disciplines comme le cross ou la piste ou le D-Born. Tu vois, moi, je crois que mon meilleur temps sur un D-Born, ça doit être sur le tour du Lac des Boulettes, justement. C'est un passage au D-Born sur une course de 17 bornes, quoi, tu vois.
Okay.
Donc voilà, donc c'était jamais vraiment, on va dire, performé tout ça. Puis j'ai du mal à me souvenir des temps. Tu vois, je pense que c'était pas ça trop ma quête de trucs.
Ouais.
Et puis dès que j'ai eu, ouais, je pense 16, 17 ans, j'ai assez vite vu que j'avais plus envie de me tourner vers des sports, où c'était plus l'aventure en montagne, c'était plus long, ça demandait plus d'adaptation, plus de gestion, et c'était ça qui me fascinait, qui m'amusait, quoi.
Ok. Et tu rêvais un peu de haut niveau quand même, quand tu disais que tu performais pas spécialement. Est-ce que, je sais pas, t'avais, des souvenirs à la télé de certains champions, championnes qui t'inspiraient, ou c'était avant tout pratiquer qui te plaisait et...
Non, je pense pas que je rêvais de haut niveau, non, clairement. Ouais. Bon, voilà, c'était cool quand on voyait les copains du club, tu vois, qui allaient en une équipe de France de cross ou des choses comme ça, c'était assez marrant, on en rigolait, mais j'avais pas du tout la prétention de pouvoir y prétendre, de pouvoir le faire. Ouais. Et je sais pas si c'était vraiment au fond de moi, vraiment une envie, quoi, donc, non, ça veut dire que c'est pas ça qui m'attirait. J'ai jamais eu de fan, tu vois, absolu. Je veux être comme lui. J'aimerais te faire comme ça. Ça a jamais été trop mon truc, quoi. Et c'est que moi, ce que j'aimais, c'était, voilà, m'amuser dans ma pratique, m'éclater avec mes potes, faire des trucs ensemble, tout ça. Et voilà, et puis clairement, tu vois, être super performant aux France, enfin, c'est un peu aussi, c'est là où j'ai en fait un peu switché sur le trail. C'était que être performant, vraiment performant aux France de cross, après quand tu passes junior, espoir, tu vois, ça commence à demander de l'engagement. Et c'était toujours, tu vois, la fin des vacances scolaires de ski. Et donc moi m'entraîner, enfin ne pas aller au ski et m'entraîner pour les crosses autour d'un stade, tout ça, même il y a 20 ans déjà, je comprenais pas quoi. Donc du coup j'arrive aux France de cross après 15 jours de ski, et enfin tu vois, quand t'es étudiant, c'est les 15 jours de l'année où tu peux skier quoi.
Ouais.
Et j'avais pas envie de faire une croix dessus quoi. Et donc t'arrives aux France de cross au bout de 15 jours de ski, t'as les cuisses éclatées, c'est sûr t'es tout bronzé hein, mais c'est pas ça qui te fait courir quoi. Et donc du coup c'est là où je me suis dit, mais en fait, là, la pratique que je fais avec le trail et l'été, quand je cours, je fais du vélo, tout ça, ça me permet de faire du ski d'hiver, ça me permet de m'éclater, je suis 10 fois plus heureux. Donc, voilà, c'est là où je dis, allez, je me lance à fond dans cette pratique un petit peu plus plaisir et hors des sentiers battus, quoi.
Ok. Et à l'école, il était comment, François ?
Et bah, j'y allais, hein.
Quoi? T'es allé à l'école? Ben non.
Non, après, moi, je crois que j'ai eu un petit peu de mal à trouver un petit peu le déclic, quoi, de pourquoi fallait un petit peu aller à l'école. Mais bon, je pense que j'étais pas trop stupide non plus. Voilà, je crois que j'étais un peu étourdi, je rêvais un peu, quoi. Mais bon, voilà, après, j'ai fait mon cursus scolaire. Voilà, j'ai eu un bac scientifique, si ça existe encore, je pense.
C'est un peu différent maintenant, ça vient de changer. Ouais. J'ai appris récemment.
Il a bien ça. Mais non, puis après, voilà, je voulais pas mettre. Enfin, je savais que les études c'était important, ça me permettrait d'avoir un métier, tu vois, où après toute ta vie, ça te permet quand même de pouvoir profiter dehors. Donc, j'avais pas envie de dire, bah voilà, pendant 2 ans, je fais que profiter. Et même si c'est un peu les années clés de ta vie, j'avais pas vraiment envie de mettre ça de côté pour la suite. Donc voilà, j'ai dit, enfin, je me suis lancé en stage parce que j'ai toujours voulu faire prof de sport. En même temps, c'était une période où ça permettait aussi une passerelle éventuellement pour entrer en école de kiné. Donc du coup, voilà, j'ai tenté un petit peu les deux choses, mais en me disant que ouais, il n'y avait pas de, enfin, en plus sans vouloir mettre la pression, du coup, en me disant bon voilà, j'y arrive, bah tant mieux, j'essaie de faire kiné, j'y arrive pas, et bah j'essaie de continuer pour faire prof de sport, on verra bien si j'y arrive. Et puis du coup, à la fin de la première année, là, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'école de Grenoble.
Ouais.
Donc du coup, je me suis dit bon bah c'est une super opportunité, peut-être qu'il faut pas laisser filer, donc je fais ça, et puis après on verra si je retourne faire prof de sport, tout ça. Et puis le côté kiné que j'ai un peu découvert, où il y a vraiment une éducation du patient, enfin tu vois, tu peux aller à la rencontre du patient, tu peux adapter tes horaires, tu peux adapter ta façon de pratiquer, les personnes que tu vois, ça m'a vachement plu, parce qu'on pouvait vraiment personnaliser la chose.
Ouais.
Donc voilà, donc j'ai terminé mes études, puis après j'ai pratiqué pendant 7 ans la kiné quoi.
T'étais déjà un peu dans cette optique de pouvoir aménager ton emploi du temps pour être dehors le plus possible et pouvoir profiter aussi de d'autres choses et de pas être, on va dire, bloqué par des horaires de travail un peu contraignants quoi.
Voilà, bah après je savais qu'un métier passion ça me dérangerait pas du tout de le faire, mais je voulais quand même que ce métier puisse me permettre de garder un petit peu de temps pour pratiquer des activités que j'avais envie, pour passer du temps avec mes amis, pour passer du temps en famille, et donc voilà, je voulais un métier qui me laisse un petit peu de temps libre. Ouais.
Ok, d'accord. Ouais. Et peut-être j'ai une question qui est pas facile. J'ai deux questions qui sont pas faciles, qui sont liées à l'enfance. C'est est-ce que toi, avec le recul, il y a dans ta personnalité, quand tu te regardes en arrière, quand tu te regardes plus jeune, des signes avant-coureurs d'un futur champion d'ultra, tu vois ? Parce que vous êtes quand même une espèce particulière, excuse-moi de le dire, mais on peut être passionné de sport et tout, mais il faut quand même tu vois, partir pour 24 heures en pleine montagne, parfois plus, dans des courses ou extrêmement exigeantes. Ça nécessite quand même certaines qualités, je pense, une certaine résilience, une certaine aussi aptitude à la douleur, enfin une capacité à ne pas écouter la douleur, quoi. Sûrement beaucoup d'autres choses, c'est à toi de me le dire. Mais est-ce que toi, avec le recul que tu as sur toi, tu pourrais te dire, tiens, ça serait peut-être un signe de soit d'un futur champion ou d'un futur passionné d'ultra, hormis effectivement la passion de la nature, comme tu l'as dit tout à l'heure.
Ouais, bah, je pense, oui, déjà la passion un petit peu de la montagne, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, bah, voilà, avec mes parents, c'est pas forcément des montagnards aguerris, quoi. Ils ont vécu dans le Nord, mais ils adoraient venir en montagne et découvrir un petit peu les choses. Et c'est vrai que quand on était petit, qu'on allait en balade, par exemple, l'été, tu vois, le but de la balade, c'était d'aller dormir dans le refuge, quoi, tu vois, c'était le point culminant, un petit peu, pour nous, quoi, tu vois, on allait jusqu'au refuge, Et puis on redescendait. Et moi, quand j'arrivais au refuge, ça éveillait en moi une certaine curiosité. Et si tu veux, le soir, s'il me laissait un peu partir, j'aimais monter, tu vois, du refuge jusqu'au glacier ou à la moraine, voir le coucher de soleil, voir le truc, et en me disant, waouh, ce monde un peu, tu vois, interdit, inaccessible. Ouais, j'ai envie d'aller le découvrir. Et donc, tu vois, ça, je pense, ça a mûri au fond de moi. Et en fait, ça t'ouvre l'appétit, ça t'ouvre. Et au jour où, voilà, on te lâche un peu l'abri, on ouvre un peu les vannes, bah, du coup, t'as envie de le dévorer avec encore plus d'appétence, quoi. Donc, je pense, ça, clairement, ça s'est construit un petit peu au fond de moi.
Et t'avais après, déjà, ouais, l'envie de découvrir.
J'avais vraiment envie d'aller un peu plus haut, d'aller voir ce monde-là, ces montagnes, tout ça. Ça me fait, enfin, ça m'a toujours un peu fasciné, tu vois.
C'est la nuit, en arrivant en refuge.
Ouais, mais tu sais, tu manges tôt dans les refuges, donc après, ouais, t'as toujours. Puis bon, j'avais pas le droit de partir 3 heures non plus, quoi, tu vois. mais tu vois, tu découvres les pierriers, les moraines, les choses comme ça. Et c'est vrai que pour moi, c'était un monde qui me donnait vraiment envie, quoi, que je connaissais pas et que j'avais vraiment envie de découvrir, un peu comme le ski de rando où, soit la première fois, je découvrais ça, on était avec des chaussures de slalom, on mettait nos pots de phoque en dessous, et puis là, tu vois, maintenant, je pratique ça tous les jours avec un équipement super léger, tu te dis, waouh, quand on s'est fait un peu la main, c'est normal qu'après, tu vois, quand on avait vraiment vu comment ça se passait, j'ai encore eu plus envie.
Ouais.
Mais après, toi, physiquement, cette aptitude, je pense que c'était plutôt, en fait, ouais, je pense qu'au fond de moi, j'ai quand même quelque chose qui fait que j'aime bien un petit peu les choses longues, les choses comme ça. Enfin, tu vois, je voyais bien, tu vois, au cross du collège ou quand on allait faire les footings avec l'athlète, on a toujours qui essayait de faire le footing le plus court possible pour ensuite attaquer l'entraînement, faire le truc, tout ça. Moi, c'était presque le moment que je préférais, quoi, ce footing d'échauffement. J'essayais toujours de faire le plus, d'essayer de passer dans des parcours un peu bizarres, des trucs comme ça. Quand toi, enfin, t'es avec tes parents en vacances et que t'as la possibilité d'aller faire un tour de vélo, t'as plein d'enfants qui râlaient parce qu'ils préfèrent aller à la plage ou qu'ils ont pas envie de faire ça ou qu'ils préfèrent rester à la piscine, tout ça. Moi, j'étais toujours volontaire pour essayer de partir, de faire les trucs. Enfin, tu vois, je me souviens ma mère et sa copine qui étaient allées faire le Mont Ventoux en vélo. Les autres enfants, ils avaient pas forcément envie de le faire. Moi, je les avais suppliés pour pouvoir y aller. J'avais réussi à négocier, même si là-haut il faisait froid, tout ça. Alors j'avais pas eu le droit de faire la descente parce qu'il faisait trop froid, il y avait trop de vent, c'est trop dangereux. Mais j'avais quand même eu le droit de monter en haut.
Okay.
Et moi, c'était le truc, ça m'amusait. Alors que toi, il y en a d'autres, ils s'en foutaient. Tout ce qu'ils voulaient, c'est acheter des bonbons là-haut, tu vois. mais moi, c'était cette idée de sport, un petit peu de dépassement, ça m'a toujours assez plu, quoi.
Ok.
J'en ai jamais, tu vois, tu vas faire une rando, j'avais toujours envie de faire la boucle de plus ou la boucle la plus dure ou le machin ou une boucle en plus ou les trucs comme ça. Et je pense que c'est un peu au fond de moi, quoi. Mes copains, ils se foutent toujours de ma gueule. C'est oui, bon, faire un footing d'une heure avec François, on revient dans 3 heures, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, c'est même pas que à la base, je suis content de faire une heure, mais tu vois, j'arrive et putain, j'ai envie d'aller voir ça, j'ai envie d'aller faire ça, j'ai envie d'aller découvrir tel truc. Et bon, voilà, ça. Assez vite t'augmente le truc, quoi.
Ouais. Et c'est l'envie de découvrir des nouveaux sentiers, des nouveaux paysages, des nouveaux décors qui te donne envie d'aller plus loin. Parce que moi, j'ai souvent ça, tu vois, quand je découvre une ville ou quand je pars faire du trail aussi, ou faire une sortie en vélo, tu vois, j'ai toujours ce truc de, j'adore découvrir un endroit et je vais toujours un peu plus loin et je me fais toujours bouffer, tu vois. Et là, je sais que quand on va terminer, je vais te laisser repartir. Bah, moi, je vais partir marcher un peu, visiter le village et je sais que je vais me faire attraper par le temps, tu vois. et du coup, je suis toujours en retard.
Il y a ça. Et puis, du coup, à ça, tu peux ajouter aussi le fait de, bah, quand tu vas augmenter un peu, tu vas découvrir forcément d'autres choses sur ton corps. Donc, tu vois, ne serait-ce qu'au niveau de la glycémie, au niveau de tes muscles, au niveau de ta résistance, au niveau, tu vois, de tes sensations du jour. Donc, tu vois, c'est à chaque fois différent. Tu découvres d'autres trucs. Et puis, pareil, selon les saisons, tu vois, ils disent, mais t'en as pas marre, là, tu cours toujours dans le Beaufortin, tu le connais par cœur, le Grand Mont et tout. Mais en fait, le Grand Mont, il est jamais pareil. Parce que l'arête, une fois, t'as une corniche énorme, une fois, t'as pas de corniche, une fois, c'est trempé, une fois, c'est couleur d'automne, une fois, c'est l'été, une fois, c'est. Donc, en fait, c'est jamais pareil. Donc, faut toujours s'adapter. Et moi, c'est ça que j'aime bien. C'est chaque jour, les conditions, elles sont complètement différentes. Tu vois, ce matin, en ski, c'était super venteux, il y avait quand même des éclaircies. Demain, ils annoncent super froid et grand. Enfin, tu vois. Même si tu fais le même itinéraire, tu vas vivre de manière différente le truc. Et donc, en plus, si t'as la possibilité en plus de découvrir de nouvelles montagnes, de nouvelles voies et de machin, bah, du coup, c'est sûr que là, c'est sans limite, quoi. T'as pas envie de rentrer, quoi.
Ouais, complètement. Et sur la point de vue, peut-être un peu plus haut niveau et psychologique, le jeune François, il avait déjà des aptitudes, tu vois, comme, je sais pas, une certaine discipline, une certaine résilience, cette capacité à se fixer des objectifs aussi, peut-être, tu vois. C'est quelque chose que t'avais ou que t'as appris?
Ouais, je pense que. Non, c'était pas forcément se fixer des objectifs ou des choses comme ça. Justement, je pense que voilà, ma pratique, la façon dont je vois l'ultra trail et surtout les courses un petit peu longues, techniques, où il faut s'adapter, tout ça. Je pense qu'en fait, c'est ça que j'aimais parce que ça me permet d'avoir une totale liberté dans mes entraînements, dans ma pratique et dans ma vie. Et où, du coup, bah, en fait, de chaque moment, si tu veux, de chaque entraînement, de chaque truc, en fait, t'en tires une certaine expérience et une sorte d'entraînement, quoi, si tu veux. Si t'es fatigué, enfin, ouais, les gens disent, ouais, mais t'as, ça c'est venu plus tard, mais toi t'as 3 enfants, tu dors peu, comment tu fais pour t'entraîner, tout ça. Je dis, bah en fait, faut plutôt le voir comme une aubaine, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, bah tu vas partir t'entraîner, effectivement. Si il fait sa première nuit à 3 ans, tu vois, il se réveille 10 fois par nuit. Forcément, quand tu pars le matin, bah t'es éclaté. Mais bon, quand tu cours 24 heures et que tu repars du ravitaillement au bout de 18 heures, t'es pas non plus en super forme, quoi. et du coup, bah en fait, si t'as jamais vécu ça, que tu vas toujours t'entraîner hyper reposé le matin après ton petit yoga matinal et que t'as toujours mangé la même chose et que tu connais ton corps par cœur, bah le jour où ton corps il est en vrac, en fait, tu sais pas faire, quoi. Ouais. Alors je dis pas du coup qu'il faut toujours être en vrac, mais si tu veux, du coup, quand tu prépares un marathon, t'as un objectif de temps et tu dois aller faire ta séance, il doit courir à telle allure, quoi. Donc t'es à l'écoute de ton chrono, un peu de tes sensations, mais aussi à l'écoute de ton chrono. À un moment, si tu passes pas telle ou telle séance, à un moment, bah tu feras jamais ce temps-là, quoi.
Bien sûr,
tu vois. Donc voilà, t'as telle semaine avant le truc, faut que t'essayes de courir un peu à allure course, je sais pas. En fait, sur un ultra, c'est complètement différent. C'est-à-dire que bah, du coup, bah là, les matins que je te disais où tu te réveilles, t'es complètement fatigué, t'as pas bien dormi ou t'as trop mangé, t'as bu un coup de trop la veille, tout ça, tu pars courir. En fait, je m'en fous de mettre 30 minutes ou 40 minutes ou une heure dans mes premiers 2000 mètres de dénivelé, quoi, si tu veux.
Ouais.
Si je mets 4 heures parce que c'est hyper technique, ou si je mets 4 heures parce que il fait trop chaud, ou parce que je suis fatigué, ou parce que c'est hyper glissant, ou parce que j'attends tel ou tel copain, bah, en fait, il faut que je m'en sers pour m'adapter, pour ressentir mon corps, voir ce qui se passe. Si je suis trop fatigué, bah, j'ai pas trop tiré dessus, et je vais essayer de pas me blesser, je vais m'adapter toujours en fonction de ça. Et en fait, tout ça, bah ça te sert finalement pour des vrais ultras, pour des courses de 50, 60, 70 heures, même 25 heures. Et bah c'est des moments là que je connais, quoi. Et c'est vrai que souvent les coureurs disent, non mais comment t'as fait, on était courmailleurs ensemble, on était complètement éclatés, et toi tu gagnes la course et moi j'abandonne. Tu dis, bah ouais, mais en même temps, oui, on était éclatés, mais de toute façon c'est le jeu, quoi. Donc il y a un moment, bah faut se réadapter, faut essayer de se reconstruire, faut essayer de se dire, bon bah voilà, qu'est-ce qui me reste dans mon sac, quoi, comment est-ce que j'ai dans mon sac, je peux finir, quoi. Et voilà, et moi c'est ça qui m'éclate, quoi. Des fois je pars 4 heures, j'ai pas déjeuné, j'ai pas d'eau, et voilà, je pars pour 4-5 heures, quoi. Bah ouais, ok, bah du coup tu vas plus doucement que si t'es hyper frais, hyper alimenté, que t'as ton moindre dos, ton machin. Là tu sais que bah du coup il faut que ton corps il compose avec ce qu'il a pour finir la boucle, quoi. Et bah t'apprends vachement plus sur toi, quoi, et c'est ça qui m'intéresse vachement, quoi.
Tu te mets souvent en danger comme ça de...
ouais. Bon, en fait, c'est pas mettre en danger, mais c'est juste que c'est marrant. Ça t'apporte du piquant, c'est super marrant, tu vois. Les gens disent, ouais, mais comment tu fais avec le décalage horaire, le machin, pour courir, ou quand t'as les enfants, ou quand t'arrives là-bas, ou qu'il fait trop chaud, machin, et tout. Je dis, bah, c'est ça qui est marrant, quoi. T'y vas, tu te prends une bonne claque, une bonne secouée, tu fais pas trop le malin, ou l'altitude, ou machin, tu rentres, t'es démonté, bah, t'apprends, quoi. Maintenant, si tout est calculé, tout est machin, tout est truc, bah, le jour où t'es un peu dans le dur, bah, t'apprends rien, puis tu sais pas faire, quoi. Et aujourd'hui, si, voilà, cette façon de vouloir aseptiser, de tout contrôler, tout maîtriser, tout ça, bah, ça marche un peu, mais ça marchera pas éternellement, quoi. Et c'est pour ça que voilà, c'est cette manière là et cette approche là que j'essaie d'avoir, tu vois, vis-à-vis des gens, en disant, bah non, tout est pas calculé, c'est pas toute la compétition, j'ai pas mes temps de passage, s'ils veulent je leur donne. S'ils veulent ma fréquence cardiaque, je la connais, j'ai fait STAP, je sais leur parler toutes les variables, tout ce qu'ils veulent, hein, tout ce qu'on veut, hein. Ouais. Tous les entraînements poussés, tout ça. Mais tu vois, même ma façon de m'entraîner avec mon coach, c'est hyper sommaire. Ça fait 10 ans avec Christophe Malardet qu'on collabore, ouais, ensemble. Mais c'est pas tel jour tu vas faire ça, telle intensité, tel truc, tel machin. C'est plutôt, on prend la saison dans sa globalité, on la regarde, on place les objectifs qu'on a envie, on regarde si c'est compatible avec ma famille, avec les partenaires, avec une logique sportive, tout ça. Et puis ensuite, bah, on regarde ça de loin, on regarde ce que j'ai, on monte en puissance pour aller faire les trucs. On sait comment je fonctionne à peu près depuis 10 ans, on sait comment j'ai envie de m'entraîner, et on essaie de faire quelque chose qui soit kiffant, qui soit excitant, qui soit amusant. Après, si on veut, on regarde dans le détail. Mais si t'as déjà construit ça comme ça, j'ai envie de dire, le truc, il est déjà fait à 90%, quoi.
Ouais.
Et c'est ça que j'essaie de montrer un petit peu aux gens et de leur dire, voilà, moi, je vous donne pas une recette toute clé en main, comme vous trouvez dans tous les magazines de trail, comment faire votre trail en 12,7 semaines avec 4,3 séances par semaine et avec des trucs. Non, en fait, c'est pas ça. Pour moi, l'ultra trail, c'est pas ça, parce que ça, dès que vous allez arriver, bah, ce jour-là, il pleut, ce jour-là, il y a de la boue, ce jour-là, ton temps de passage, il est pas bon, ce jour-là, bah, là, tu sais plus faire, t'es perdu. Et l'ultra trail, c'est ça, quoi.
Ouais.
L'ultra trail, c'est s'adapter en permanence, quoi.
Mais je suis tout à fait d'accord sur cette agilité mentale et cette capacité en fait à absorber les conditions extérieures parce que
et ça, tu les contrôles pas. C'est ça l'ultra quoi. Et j'avais fait une fois, j'ai eu la chance de faire une interview un peu en duo assez marrante avec Franck Camas, là, donc un navigateur, ouais. Et qui disait, au bout d'un moment, on est arrivé un peu aux conclusions, on se disait en fait, on est un peu pareil quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye d'habituer notre corps à être le plus fort, à parer toutes les incertitudes et tous les trucs pour pouvoir aller dans un truc qui a encore plus d'incertitudes, quoi. Et en fait, il disait, voilà, moi, je suis capable de m'adapter à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. Et tout ça pour faire quoi? Pour partir dans une course encore plus compliquée, avec des conditions encore plus pourries, encore plus tout seul, encore sans rien. Et voilà, donc en fait, ce qu'on aime, c'est en gros s'entraîner toute l'année à faire face à ces incertitudes pour aller chercher des trucs qui ont encore plus d'incertitudes. Et c'est ça qu'on aime, quoi. Il disait, maintenant, ouais. si c'est une course trop facile que je sais faire et c'est juste de la compète et le plus performant et tout, il dirait, je serai à la rue. Par contre, s'il faut s'adapter vraiment, qu'il faut vraiment engager, réfléchir, faire appel à tout ce que t'as accumulé depuis 15 ans, il dit, là, je suis pas mal. Et je disais, moi, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, t'essaies de mettre des cartes dans ton jeu, quoi. Et en gros, voilà, aujourd'hui, moi, j'essaie d'avoir le plus possible de cartes. Alors, j'ai peut-être pas les cartes les meilleures, tu vois, elles sont peut-être un peu vieilles, mes cartes, mais en fait, j'en ai plein, quoi, tu vois. Et ce qui fait que si c'est un vrai ultra, qui demande appel à plein de cartes, c'est là où on va tirer un peu notre épingle du jeu, et c'est surtout là où je vais m'amuser, en fait, quoi. Maintenant, un ultra, j'ai envie de dire, aujourd'hui, maintenant, jusqu'à 120 bornes, les mecs, si c'est un peu lisse et que c'est machin, les mecs, ils savent tout faire, c'est tout aseptisé, ils sont surentraînés, tout ça. Bon, voilà, c'est clair qu'ils ils vont nous mettre le paquet. Et c'est pas du tout, moi, ça, je m'amuse pas du tout dans ce genre de truc, quoi. Tu vois, tout le monde se regarde et puis ça devient une course de vélo où tu te mets les sacs les uns les autres. Ça, c'est pas amusant, quoi. Et je suis pas bon là-dessus, quoi. Moi, je suis bon quand justement, il y a plein d'incertitudes qui font qu'il faut s'adapter, que la course, elle se dessine. Et puis finalement, celui qui arrive en premier, c'est celui qui a réussi à faire face à, tu vois, tous les obstacles, quoi. Et c'est pas forcément celui qui est le meilleur sur son home trainer qui va gagner à la fin, quoi.
Ben, je t'admire beaucoup pour ça, justement, tu sais, pour cette capacité, justement, à un petit peu, t'es un petit peu non, t'es complètement antifragile, quoi. Plus ça devient dur, plus tu t'endurcis et plus tu t'éclates, j'ai l'impression. Je voulais te poser d'ailleurs un moment, tu vois, quelle est la course, toi, que t'avais considérée comme la plus dure, psychologiquement? Ça tombe bien. mais il y en a une, peut-être une course, dans cette difficulté qui t'a marqué où t'as vraiment dû aller chercher encore plus loin que d'habitude.
Je suis pas allé chercher trop tant loin que ça finalement, mais une course où en gros si j'avais pas joué sur cette habileté là et cette adaptation là, je serais jamais allé au bout. C'est clairement le GR20, quoi.
Ouais.
Parce que le GR20 dans les conditions où je l'ai faite à l'époque, c'était assez engagé, quoi. Moi j'avais que un ou deux pacers avec moi tout le temps, et encore il y a pas mal de fois où je me suis retrouvé tout seul. On a des conditions qui étaient pourries, qui étaient hyper glissantes, tout ça. Et tu vois aujourd'hui, quand je vois aussi un petit peu l'évolution du truc, je me dis que là j'étais vraiment dans la pratique de l'ultra comme je l'aime, quoi, tu vois. Et c'était un vrai GR20, quoi, tu vois. On est parti, s'est chopé la pluie, j'ai perdu mes baisseurs, on a perdu les trucs, tu vois. Je suis arrivé au bout de 7 heures dans un refuge en disant vous pouvez pas me dépanner d'un Twix ou d'un Mars là, parce que là je suis tout seul, là je suis en train de tenter le GR20, j'ai pas une thune, j'ai rien, je sais même pas où ils sont mes coéquipiers. Et le mec il me disait, mais tu te fous de moi là? Il me dit, tu crois vraiment que je crois que tu vas faire ça et tout? Je dis, non, mais si je vous jure et tout, je vous promis, dès que j'arrive à Conca là, je vous envoie un chèque, je vous rembourse, soit ce que j'ai fait tout de suite, quoi, tu vois. Mais le mec il me disait, non mais t'es un oiseau là, t'as même pas fait un quart du truc, t'es tout seul, t'as pas de bouffe, t'as pas d'eau, et là tu me quémandes un Mars, qu'est-ce que tu veux aller faire ton machin? Et après du coup je lui donne le carnet à tamponner pour lui prouver que c'était vrai, et là il disait, ah ouais. Et ça a été ça une grande partie du GR20. Et tu vois, on était tellement motivés avec mes potes, Jean-Michel était là aussi, ma femme, enfin tout, on était une petite équipe vraiment soudée, et du coup on avait tellement envie d'aller au bout de ce truc. Et on n'y allait pas que pour le chrono, qu'on est allé pour faire cette aventure, pour arriver au bout de cette aventure-là. Et on a tellement été motivés que, on est allé au bout et qu'on a eu ce record, mais c'était presque un peu anecdotique pour moi, quoi. Puis dans les conditions qu'il y avait, si tu veux, on aurait eu des bonnes conditions, des machins, ça aurait été encore autre chose. Mais c'était, pour nous, c'était surtout d'aller au bout du truc, quoi. Donc, tu vois, tous les gens, ils disent, ah, mais là, le record, il a été battu, faut que tu y retournes, faut machin et tout. Tu dis, non, mais en fait, là, ce qu'on a vécu là-bas, record ou pas record, c'est ça qui nous a fasciné, quoi.
Ouais, bien sûr. Ouais, c'est autant l'aventure humaine que les imprévus qui t'a,
tout à fait,
qui toi t'as fait transcender, quoi. Ça me fait penser à deux choses, tu vois. La première, c'est c'était d'en discuter avec Jérémy Azou, qui est lui, qui est champion olympique d'aviron. C'est un peu, mais c'est un peu ton alter ego en aviron. Je sais pas si tu le connais, mais il a été champion du monde, je crois. Il a été champion olympique 5 ou 6 fois champion du monde, 15 fois champion de France. Hein, bref, c'est un peu la légende dans l'aviron. Et il me dit, moi, je déteste les gens qui me disent sortir de sa zone de confort. Moi, je fais que l'agrandir, en fait. J'ai un peu l'impression que c'est un peu comme ça que tu t'entraînes, où tu vas chercher toujours un petit peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Du coup, le jour J, bon, bah, si c'est encore un peu plus loin.
Ouais, puis après, tout dépend ce qu'on appelle zone de confort, quoi, en fait. Si je devais repartir avec toi à Paris, là, ouais, là, je sors de ma zone de confort. Ouais, là, je suis pas à l'aise, là, je comprends rien. Et je suis pas à l'aise, et il y a du monde, et là, j'aime pas, quoi. Par contre, voilà, sortir de sa zone de confort, parce que quoi? Parce que t'as froid, parce que t'es perdu, parce que tu cours 1h30 de plus sans eau, parce que t'es en hypo, parce que bah, t'as crevé au milieu de tel col au milieu de la nuit, et que tu galères et que tu rentres à pied en poussant ton vélo. Pour moi, c'est pas sortir de sa zone de confort, c'est juste, que bah, ce jour-là, t'as pas eu de chance et t'as étendu un petit peu cette zone-là. Mais pour moi, c'est du confort déjà de pouvoir faire ça. Ouais. Et ça, j'aime bien. Mais ouais, je pense qu'il a raison. C'est-à-dire qu'en gros, nous, ça dépend comment tu vois la chose à la base, quoi, en fait. Et voilà, les gens me disent, mais quand, à un moment, c'est pas trop dur. Au bout de 18h, t'en as pas trop marre, t'as pas, tu te demandes pas pourquoi t'es là, qu'est-ce que tu fais là, tout ça. Dis, mais en fait, tu t'attendais à quoi? Tu t'inscris, soi-disant, surtout les gens me disent ça, c'est à la diagonale. Tu te dis, bah, tu t'inscris potentiellement à la course, une des courses les plus dures du monde. Tu sais qu'il va faire super froid, tu sais qu'il va faire super chaud, tu sais que le terrain, il peut être boueux, il est cassant, il y a soi-disant les dénivelés les plus abrupts, les trucs et tout ça. Et toi, tu te dis que ça va être tranquille, que t'auras pas de crampes, que t'auras pas mal aux pieds, que tu vas pas faire d'hypo, que tu vas pas prendre un coup de chaud, que t'auras pas mal. Tu te dis, bah, ouais, bah, forcément, tu t'y attends. Donc, à un moment, oui, ça te saoule quand tu l'as sur place et que tu le vis et t'es fatigué. Mais en fait, faut assez vite prendre du recul et relativiser et te dire, eh ben en fait, je l'ai choisi, enfin, je suis là pour ça, quoi. J'ai signé pour ça. Personne m'a forcé, quoi. C'est moi qui ai choisi. J'ai même payé pour ça. Et ça fait 1 an et demi que t'embêtes toute ta famille et tous tes potes pour t'entraîner pour ce truc-là. Et puis, ça fait même plus longtemps parce que pour avoir ton dossard, c'est compliqué. Donc, maintenant que t'y es, t'as la chance d'y être. Et faut le vivre. Faut se dire que, ouais, ce coup de mou, bah, c'est plutôt marrant, quoi. Faut arriver à tourner le truc comme ça, quoi.
Ouais. Je t'avais dit quoi que je voulais te poser la question de. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te poser la question? Qu'est-ce que tu foutais là? Donc voilà, on a la réponse.
C'est logique de se la poser, mais faut assez vite prendre du recul et te dire bah ouais, je suis là, mais je l'ai bien cherché, je l'ai bien choisi et bon, il y a des fois tu vois c'était super dur, mais il y a des fois je me dis assez vite, je dis voilà quand je. Quand on va regarder ces moments-là où je descends à pied le chemin des Anglais en rigolant, en hurlant de crampes et de machin, c'est assez compliqué, quoi, tu vois. J'ai des souvenirs comme ça où, pareil, tu vois, les kinés, ils sont en bas, ils essaient de masser, ça va passer. Je dis, mais non, ça va pas passer. Puis, une fois, les kinés que je connaissais bien, puis, mon beau-père qui était là, il me remet debout tout droit, effectivement, c'était pas passé, j'étais encore plein de crampes. Je tape sur l'épaule, il me dit, ça va aller, il me regarde, il fait, oui, enfin. Ouais, ça va aller, quoi. Non, ça va pas aller, mais bon, tu vas faire aller, quoi. Mais voilà, faut arriver à rigoler un petit peu et se dire, de toute façon, c'est que du sport, quoi. Il n'y a rien de dramatique non plus, quoi.
Et ça m'amène un petit peu à la question de la compétition, parce que, bah, comme je te l'ai dit, moi, je t'ai découvert par ce super reportage qui avait été fait à l'époque par Canal, là, sur Intérieur Sport. Et c'est aussi ce que retient le public, tu vois, c'est que tu as fait des superbes courses avec des beaux duels, des beaux finishes. Mais quand je t'entends parler, là, depuis le début, moi, j'ai l'impression que c'est surtout. Le rapport à toi, quoi, le challenge par rapport à toi-même, te faire mal, te sortir de ta zone de confort, te sortir de tout ça. Est-ce que le petit François, plus jeune, il aimait la compétition? Il aimait ce type de duel?
Ouais, je suis pas sûr, quoi. Après, ce que j'aimais bien, c'était, oui, peut-être plus à l'écoute de mes sensations, tu vois, arriver en étant satisfait de moi, d'avoir donné le meilleur de moi-même, tu vois, que j'ai pas eu. Toi que j'ai pu être apte, tu vois, à me livrer la meilleure version de moi-même le jour de la compétition, quoi. Après, bah, si ce jour-là je faisais premier ou je faisais dixième ou je faisais tel temps ou tel temps ou tel temps, si tu veux, c'était très bien. Enfin, c'était quelque chose, mais c'était un peu anecdotique pour moi. Qu'après, finalement, je me souviens plus de sensations que vraiment des temps que j'ai mis ou les choses comme ça, quoi, tu vois.
Ouais.
Et de savoir, là j'ai fait une belle course, là je peux m'améliorer. Enfin, tu vois, c'est plutôt ça que je recherche, quoi.
C'est quoi ta recette pour donner la meilleure version de toi-même le jour J? Tu vois, là, comment t'expliques que certains vont peut-être, tu vois, s'effondrer un peu, soit sous la pression, et que toi, à l'inverse, ça te transcende, t'es mon côté encore plus fort, et que t'arrives à avoir cette petite voix qui te dit, mais attends, j'ai signé pour ça, j'en refais.
C'est pas assez dur, là. Je pense que c'est plutôt déjà à la base, quoi, tu vois, de savoir un petit peu ce que tu vas, pourquoi tu fais telle ou telle course, quoi, tu vois, ce que tu vas y chercher et tout ça, quoi, tu vois. Quand tu vas à un championnat du monde, en fait, bah, t'y vas pas pour faire telle boucle ou telle boucle, en fait, tu sais même pas où c'est, quoi. Donc, en fait, t'y vas pour faire une place, quoi, clairement, quoi. Et ça marche, je pense, jusqu'à une certaine distance, jusqu'à certains trucs. Sur un ultra, moi, j'ai jamais fonctionné comme ça, quoi. J'ai toujours choisi mes ultras pour le parcours, pour ce qu'ils représentent, pour l'aventure que ça représente, pour l'intérêt, tu vois, qu'il y a derrière tout ça, quoi. Voilà, aujourd'hui, genre, il y en a certains qui critiquent un petit peu l'UTMB, c'est devenu ça, ça, si, ça, ça. Ok, sauf que le trou du Mont Blanc, en lui-même, quand tu le fais à pied, n'importe qui avec un sac à dos, c'est un parcours qui est incroyable. La diagonale des fous, voilà, tu traverses l'île dans une diagonale en passant par trois cirques qui sont plus que magnifiques. Voilà, le soleil, des couchers de soleil, enfin c'est une île, c'est l'île intense qu'ils appellent. Il y a quand même quelque chose, quoi. Tu vois, quand j'ai fait le John Muir, quand j'ai fait le GR20 la première fois avec mon sac à dos, je me suis dit waouh, tu peux le faire en une fois. Il y a un truc, quoi.
Ouais.
Et donc voilà, donc moi c'est déjà en premier lieu, c'est ça que je vais chercher, quoi. Donc après, maintenant, bah, donner la meilleure version de toi-même, disons, quand tu vas chercher ça, tu te renseignes sur les spécificités de la course, quoi. Donc en fait, je prépare pas une diagonale comme je prépare une UTMB, comme je prépare pas une hard rock, mais c'est sans dire de le préparer. Voilà, qu'est-ce que je dois manger comme graines, ou qu'est-ce que je dois faire comme séance. Non, c'est plutôt de se dire, bah voilà, la Réunion, c'est quoi les conditions qu'il y a à la Réunion, quoi. Et moi, François Laine, qu'est-ce que je sais faire, quoi. Et où c'est que je pêche, et du coup, là, si je m'imagine François Laine face à ce sentier de la Réunion, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je pense que je dois travailler? Et qu'est-ce que je dois faire pour aller là-bas, quoi? Et donc, bah, voilà, je vais essayer de me préparer au mieux pour ça. Mmh. Et bah, une fois que je suis là-bas, bah, je vais essayer de mettre en place ce que j'ai mis en place lors de mes entraînements pour me préparer à cette compétition-là, quoi. Aujourd'hui, préparer un UTMB ou une hard rock ou une western ou une diagonale, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Un GR20, quoi. Donc je vais m'entraîner de manière spécifique, et puis après, le jour J, bah, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même à l'écoute de moi. Et bien sûr, je vais être intéressé par la compétition. Et bien sûr que je vais jouer le jeu de la compétition. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un luxe, quoi. Quand du coup, t'as suffisamment de bonnes sensations pour, en plus de ça, te dire, putain, là, il y a un tel ou il y a un tel, j'ai envie de me jouer avec lui, j'ai envie de me mettre des sacs dans la montée avec lui, j'ai envie de, voilà, on va se faire sauter, on va s'amuser. J'adore ça, la compétition, il n'y a pas de souci. Mais à la base, je m'inscris pas parce qu'il y a un tel ou un tel, ou parce que je peux aller faire un duel contre Kylian ou contre machin à telle course. Voilà, je me suis inscrit à la hard rock bien avant de savoir si Kylian il allait à la hard rock ou pas. Je suis inscrit à l'UTMB bien avant de savoir qu'un tel et un tel où y aller, quoi. Sur les journalistes, ils appellent, ouais, mais là, il y a un tel qui y va, faut à tout prix t'y aller. En fait, je fonctionne pas dans cet ordre-là, je fonctionne plus dans l'ordre inverse. Donc là, si tu me demandes dans ce sens-là, du coup, je vais pas y aller, quoi. et par contre, voilà, si t'es inscrit là-bas et qu'il s'avère qu'il y a un tel, enfin, tu vois, quand tu t'inscris à l'UTMB, tu sais qu'il y a toujours un super plateau, et c'est génial, et c'est aussi pour ça que j'y vais. Mais avant tout ça, faut déjà être apte à finir la boucle, à pouvoir, tu vois, être honnête avec toi-même, avec les organisateurs, avec tout le monde. Et je vais pas juste jouer le jeu de la compétition alors que je suis hors de forme et puis bâcher au bout d'un tiers, ou j'en sais rien, quoi. Tu vois, je vais déjà, ok, je prends un peu de poids de mesure pour me dire c'est quoi le challenge là. Ok, maintenant si je me sens habile avec le challenge, bah je vais commencer à prendre un petit peu des risques, à jouer le jeu de la compétition de plus en plus, et puis je vais la jouer clairement à fond, mais voilà, j'y vais dans cet ordre là, quoi. Ouais. Je m'entraîne pas pour gagner l'UTMB, quoi. Je m'entraîne déjà pour aller faire face à l'UTMB. Et maintenant, quand je me sens de mieux en mieux, bah voilà, je commence à imaginer que je peux y courir de plus en plus vite, que je peux mettre des stratégies en place, que même si j'ai de la marge, je vais pouvoir jouer un petit peu avec un tel ou un tel, je vais pouvoir faire des stratégies compétitives. Mais voilà, c'est dans cet ordre chronologique là, quoi. Ouais. Si maintenant j'y vais pour gagner ou pour telle ou telle place, bah du coup tu fais une croix sur tout ça, qui sont les bases de l'ultra, et du coup, bah, soit t'es vraiment, vraiment super fort et au-dessus du lot, et ça peut passer, soit sinon, bah, tu vas dans le mur, quoi.
Ouais. C'est ce que j'entends un peu par là, si je me permets de reformuler, c'est, ouais, trouver un peu ton why et pourquoi tu as envie de le faire, quoi, entre guillemets.
Voilà, après, c'est ça, le reste, c'est la recette de chacun, quoi, en fait. Après, les gens disent, ah, mais du coup, tu nous dis, t'es trop évasif, tu dis jamais comment il faut s'entraîner, c'est quoi, toi, tes secrets, c'est quoi, tes chiffres, c'est quoi, ton cardio, quel dénivelé tu fais, c'est quoi, les séances que tu fais, et tout. Je dis, mais en fait, je pourrais vous les donner. Je pourrais même vous les analyser de la meilleure manière. Enfin, j'ai toutes les clés en main pour les analyser, hein. Je sais très bien faire, hein. Il n'y a aucun souci, j'ai fait de l'athlète toute ma vie, je connais toutes les séances, je connais tous les seuils que vous voulez, j'ai fait stop, enfin, il n'y a aucun souci. Mais ça vous servira à rien, parce qu'en fait, vous êtes pas, enfin, chacun doit trouver son truc perso à soi. Alors, moi, j'aime bien donner des grandes bases. Mmh. Mais ensuite, chacun doit trouver un petit peu là où il doit s'améliorer, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit pas faire. Enfin, voilà, il faut déjà se dire, en fait, c'est quoi, t'es face à quel challenge et t'as quelle carte en main, quoi. Et en fonction de ça, bah, on va bosser, on va avancer. Mais si tout le monde s'entraîne de la même façon, ça marchera pas, quoi.
Ouais, il va y avoir beaucoup de blessés et de casses au final.
Ouais, puis du coup, tu t'exploites vrai. Alors, ça va marcher pour 75% des gens, on va dire, mais de manière grossière et globale. Et tu pourrais vraiment être plus performant et plus personnalisé. Et l'ultra trail, pour moi, c'est ça. Donc, c'est moi, ce que j'aime bien donner aux gens, c'est des petites clés, des petits trucs pour qu'ensuite ils révèlent un petit peu leur potentiel, quoi.
T'as quand même un sacré avantage, je trouve, sur les autres, tu vois, d'avoir cette connaissance-là, tu vois, de l'athlétisme et cette connaissance-là des seuils, des vitesses, en plus l'amour de la montagne, tu vois, il y en a qui arrivent dans le trail peut-être un petit peu plus tard et qui n'ont pas cette base quand même, tu vois, de vraiment comprendre comment sont faits les tableaux, comment ça fonctionne, comment sont faits les tels entraînements, pourquoi et tout. Je trouve que c'est un petit avantage quand même que t'as là, je trouve.
Ouais, après.
Toi, peut-être que ça te semble naturel. Après.
Oui, moi, ça me semble un peu naturel. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu pars pour faire 24 heures et que tu essaies de jouer un petit peu devant, aujourd'hui, je pense que même si t'as pas la connaissance scientifique, t'as la connaissance de toi et tu te rends compte un peu de certaines choses, quoi.
Ouais.
Ou alors, sinon, c'est que, tu vas réussir un ou deux ultras, puis après, tu passeras à autre chose parce que c'est de la chance et ou que t'es pas vraiment motivé par ça. Mais aujourd'hui, si tu veux faire carrière dans l'ultra et vraiment, t'es obligé d'apprendre à connaître ton corps, savoir comment fonctionne ton corps et voilà. Et après, par contre, il y en a qui aiment bien fonctionner avec certains outils scientifiques et d'autres beaucoup moins ou des choses comme ça. À chacun de faire son truc, quoi.
Ouais. Mais je voulais te poser un petit peu justement la question de l'évolution du trail là sur ces 10-12 dernières années, parce que du coup, toi, ton premier UTMB, c'est en 2012, si je me trompe pas.
C'est ça. Enfin, donc c'est la première fois que j'ai gagné l'UTMB, c'est en 2012.
Ouais, après,
j'ai fait la CCC en 2006 déjà, je crois.
Ouais.
En 2007. Et je crois que j'étais inscrit à l'UTMB en 2010, je crois, 10 et 2011. Okay. Voilà. Et 2011, je me suis arrêté pas très loin de l'arrivée. Et c'est là aussi où j'ai eu le déclic sur l'été que j'avais passé, la façon dont je m'étais entraîné, tout ça. Et c'est ça qui m'a, je pense, potentiellement permis aussi de derrière vraiment assumer ma façon de faire et de comment j'avais envie de continuer de pratiquer, quoi.
Ok. Bon, du coup, ça fait un paquet d'années, ça nous rajeunit pas tout ça.
T'es pas né, si?
Si, oh, quand même. Merci, c'est gentil, mais bon. J'aimerais bien revenir à cette époque-là, mais tout ça pour dire que on n'a pas tant de différence, hein, je crois qu'on a que 5 ans.
Ouais.
Je suis pas un... mais je sais que j'ai l'air jeune, c'est gentil. On va rajeunir. François essaie de nous draguer, en fait. Non, je plaisante, on digresse, mais tout ça pour dire que est-ce que justement, tu vois, cette évolution du trail, effectivement, un peu avec de plus en plus de médias, des concurrents, de plus en plus de techniques, de plus en plus de public. Bon, c'est... Moi, je suis content parce que je vois un sport en plein essor. Et c'est un sport que j'aime. Et c'est un sport, j'ai l'impression, qui rapproche les gens de la nature, qui rend les gens moins bêtes, je trouve, de manière générale. Et pour le petit parisien que je peux être en ce moment, ça éduque un peu. Mais tu vois, j'étais curieux d'avoir, toi, un petit peu ta vision. Est-ce que ça te dénature pas trop comparé du trail, justement, que tu aimes? Parce que... justement, trop de médias, on peut comprendre en t'écoutant un peu entre les lignes que c'est pas forcément toujours ta tasse de thé, que trop le public, trop les traces, les parcours, les trucs, bon, tu prends ça avec un peu d'ironie, quoi, et beaucoup de bienveillance, bien sûr, mais comment tu le vis un peu cette évolution-là? C'est quoi ton regard par rapport à tout ça du haut de ta montagne et qui regarde les Parisiens arriver en masse dans tes massifs pour venir t'envahir et te piquer des plans d'entraînement.
Je le vois plutôt bien, surtout depuis pas mal quelques années, parce que je trouve que du coup l'ultra trail, c'est quand même une discipline, c'est pas le trail, quoi. ça fait partie du trail, mais c'est quand même vraiment une discipline à part, quoi, aujourd'hui. Et donc, ouais, c'est vraiment cool parce que du coup, tu dis, enfin, voilà, cette façon-là, c'est comme tu dis, la science, la technique, les performances qui s'améliorent, tout ça, toi, les coureurs qui viennent de la route ou de l'athlé ou qui vraiment aujourd'hui, tu vois, laissent vraiment rien de côté, tout ça. Et bah, je trouve que ce qui est cool, c'est que sur un vrai ultra où vraiment ça demande de l'adaptation, où faut courir, tu vois, plus de 20 heures, finalement, ça marche pas encore, quoi. Et c'est pas la bonne recette, quoi, tu vois. Enfin, tu vois, il y a 5-6 ans, je me dis, bon, voilà, c'est fini, là, maintenant, de toute façon, l'UTMB, ça va se courir en 16 heures, et puis, voilà, c'est réglé. Tu vois, tout le monde disait, ouais, mais les meilleurs athlètes, dès que les Africains ou les Kenyans ou les Éthiopiens, ils vont se mettre à l'ultra, vous allez tout vous faire plier, c'est réglé, tout ça. Et potentiellement, enfin, tu vois, pourquoi pas, hein. Et puis d'ailleurs, tu vois, sur des courses courtes comme Cerzignal ou des choses comme ça, tu vois, les performances, elles deviennent de plus en plus élevées, de plus en plus rapides et tout ça, et enfin, ouais, d'un côté très bien, tu vois, les Jeux Olympiques, tu vois, tout le monde en parle, les championnats du monde, tout ça, mais pour l'instant, bah, tout ça, ça marche jusqu'à une certaine distance, quoi, tu vois, jusqu'à 70, 80 km, ça passe, même, tu vois, sur une CCC, ça commence à passer les années où il fait super beau, qu'il n'y a pas des conditions trop difficiles et tu vois, et que ça court, quoi. Mais pour l'instant, on n'en est pas à courir de nuit, à se prendre 5 cm de neige au sommet, alors les jambes complètement gelées, à chercher son itinéraire, à devoir sortir sa montre et trouver la trace, à changer complètement son alimentation parce qu'il y a deux ravitaillements qui vont sauter, qu'il n'y a pas les contrôleurs, qu'il n'y a pas les baliseurs et qu'il n'y a personne. Et ça, c'est l'ultra, quoi. Mmh. Et sur ça, bah, je trouve que, voilà, la discipline, elle change pas, quoi. Finalement, tu vois, la première fois que j'ai fait un trail longue distance, donc c'était à La Réunion en 2009, et finalement, les 5 qui étaient sur le podium, ils sont toujours là aujourd'hui, et savent s'adapter, sortir de n'importe quelle situation, et aujourd'hui, ils sont tous encore capables d'être dans le top 5 à La Réunion, quoi. Mmh. Donc finalement, tu vois, je trouve que ma discipline, elle a pas trop évolué. Et après, voilà, il y a plus de public, il y a plus de médias, mais, il y a plus de gens qui sont un peu fans, qui veulent ça, mais voilà, après, quand t'es fatigué, des fois, tu peux trouver ça un peu pénible, un peu lourd, tout ça, mais d'un autre côté, c'est des gens qui sont passionnés, qui aiment le sport, qui ont envie d'en savoir plus, qui ont envie de faire ce track, et donc c'est génial, donc faut plutôt le voir, oui, ok, ça demande plus de sollicitations, ok, bah, tu te balades, tout le monde te reconnaît, c'est compliqué des fois à gérer tout ça. Maintenant, c'est des gens qui sont admiratifs, qui rêvent de ça, qui, comme tu dis, qui sont mis à aller pratiquer un sport dans la montagne, à essayer de se découvrir soi-même, à essayer de découvrir des traces, à essayer de prendre soin de la nature, parce que quand tu pratiques ce sport-là et que tu vois quelque chose par terre, bah tu le ramasses. Enfin, tu vois, tout le monde dit, ouais, il y a une pollution, il y a ci, il y a ça. Ouais, ok. Sauf que aujourd'hui, je suis désolé, je suis sur des tonnes et des tonnes de trails. Honnêtement, j'ai jamais vu quelqu'un. Enfin. J'espère jamais le voir, mais les mecs qui volontairement vont jeter un gel par terre et dire ouais, je m'en fous, de toute façon je reviendrai pas là, ou balancer leur papier, ou faire n'importe, enfin au contraire, les gens, ils voient quelque chose par terre, ils disent putain, il y a quelqu'un qui a dû le faire tomber sans faire exprès, il le ramasse, enfin tu vois. Aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une éducation, il y a quelque chose de vraiment positif derrière tout ça, et voilà. Et puis après, bah moi, vu que je suis là depuis très 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 longtemps, c'est vrai que j'ai eu la chance de voir un petit peu cette évolution avec les médias, avec les pratiquants, avec les personnes, et c'est pas venu du jour au lendemain où t'as tout ça qui te tombe dessus, quoi. Ça a été vraiment très très progressif pour moi, quoi. Donc ça c'est cool, quoi.
Ouais, c'est vrai que tu vois un peu la transition, et qui est aussi liée un peu aussi à l'ère du digital, tu vois, qui, j'imagine, il y avait pas grand chose en 2006.
Non, mais c'est ça, c'est que les réseaux sociaux, au début, on savait même pas ce que c'était, ni comment ça marchait, ni tout ça. Et puis aujourd'hui, bah, il y en a, ils font des réseaux sociaux même avant de courir. Donc, c'est vrai que les choses, elles ont évolué, mais voilà, on a eu la chance de les voir évoluer progressivement. C'est-à-dire, t'es pas tombé du jour au lendemain dedans, quoi.
Ouais. Ok, ouais, bien sûr. Écoute, ouais, hyper intéressant, et puis je trouve ton point de vue très bienveillant et optimiste pour la suite. Et c'est vrai que, tu vois, quand moi je vais courir le marathon de Paris la semaine prochaine, tu vois, je suis invité par un partenaire, je suis très content aussi de le courir, mais je sais que les pratiques sont pas les mêmes, tu vois, et la mentalité est pas tout à fait la même. Et en fait. Au début, tu vois, ça m'indignait. J'avais presque plus envie de courir le marathon de Paris, parce que voir des gens qui balancent leurs bouteilles d'eau par terre et s'en foutre, et parce que en fait, t'as des gens qui ramassent tout et tout. Et,
oui.
Et
je pense que le post-marathon, tu retrouves rien. Il y a des gens qui passent justement pour faire en sorte que ce soit tout clean derrière, quoi. Donc.
Mais je sais que, tu vois, parmi les finishers du marathon, bah il va y avoir des gens comme moi. C'est peut-être 10%, 15%, 20%, je sais pas, mais qui vont en avoir marre de la route et qui vont passer en forêt, qui vont aller chercher du dénivelé et qui
qui peuvent pas aller tous les qui habitent à Paris parce que potentiellement ils aiment la ville ou pour des raisons professionnelles et qui peuvent pas aller toutes les semaines en montagne.
Ouais.
Et donc ça peut être aussi une préparation hivernale, une façon de faire les choses et puis de ponctuer ça par un événement qui peut être marrant et sympa et ensuite d'aller faire autre chose quoi.
Enfin,
tu vois, chacun fait, moi l'hiver je fais du ski de randonnée, je fais pas du tout de trail, mais ça me permet aussi de passer l'hiver différemment, me ressourcer et puis ensuite d'aller vers d'autres objectifs et donc voilà, enfin moi je trouve qu'il en faut pour tout le monde quoi.
Ouais. Bien sûr.
Il n'y a pas de souci. Après, voilà, c'est une manière spécifique de s'entraîner. C'est un événement comme un autre, quoi. Et je pense que, voilà, je préfère voir les gens faire le marathon de Paris que d'être assis dans leur canapé à rien faire, quoi. Donc, j'ai aucun souci avec ça, quoi.
non, mais bien sûr, mais je sais que tu n'as aucun souci là-dessus. Mais je dis même, tu vois, il y a un côté positif parce qu'il y a un cheminement de pensée où tu cours, t'écoutes ton corps. Une fois que t'écoutes bien ton corps, t'écoutes un peu plus la nature et que tu te diriges petit à petit vers des comportements de plus responsables et un peu plus réfléchis. Donc, je trouve ça intéressant. C'est quoi ton secret de la longévité?
Bon, j'ai pas trop de secrets.
T'es là pour tout dévoiler.
Non, c'est plus que les gens me disent, ouais, quand c'est que t'arrêtes, enfin, tu vois, il y a plein de sportifs qui courir pendant 15 ans, un peu, sans dire à haut niveau, mais tu vois, courir à 15 ans de manière assez performante, enfin, dans une carrière, pour certains, ça paraît inconcevable, quoi.
Ouais.
Et moi, ils me disent, bah, du coup, je vais pas du tout envie d'arrêter, j'ai encore plein de projets, j'ai plein de trucs et en fait mon secret c'est juste de pas faire les choses parce qu'il faut faire les choses quoi. Je fais les choses parce que j'ai envie de les faire quoi, parce que je m'amuse à les faire. Le jour où j'aurai plus envie, bah j'espère qu'il arrivera pas, et du moins tu vois, j'essaie de faire que des choses qui me donnent vraiment envie quoi. Et des préparations du coup qui me font rêver, qui m'amusent. Et tu vois, par exemple, j'en sais pas forcément le marathon de Paris, mais tu vois, faire un marathon en lui-même, tu vois, juste l'effort en lui-même, je pense que ça va être assez amusant, tu vois. Il y a quand même une gestion quoi, tu vois, c'est pas même sur un 10 bornes, enfin, tu vois, un marathon, tout le monde parle du mur, tu vois, du machin, de, est-ce qu'il faut partir trop vite, tu vois, quelle allure, est-ce que tu dois accélérer, ralentir, ça peut être super intéressant. Par contre, la préparation pour le marathon, ça m'amuse pas du tout, quoi. Parce que, comme je disais, tu vois, il faut aller courir, tu vois, il y a certaines intensités, il faut quand même bouffer des kilomètres, t'es un peu moins à l'écoute de ton corps, donc il faut, si je le fais de manière performante, tu vois, c'est pour essayer de faire un temps. Du coup, bah, il faut que j'aille courir à telle allure, donc t'es moins à dire, tiens, en fonction de si je suis fatigué ou pas, je vais aller vite, je vais aller doucement, combien de temps je vais passer en montagne, selon les conditions, tiens, je prends mes petits skis ou mes gros skis, bon, ouais, il y a pas de neige, je vais faire ça, ou je vais au ski de fond, enfin, tu vois. Et aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est cette préparation-là. Donc, en fait, je choisis des courses exprès pour avoir une préparation qui me fait rêver, quoi. Tu vois, la Hard Rock, c'est une super course aux États-Unis. Mais ce qui est encore plus super avec la Hard Rock, c'est la préparation de la Hard Rock.
Pourquoi ?
Parce que la Hard Rock, c'est une course qui est assez technique.
Ouais.
Où du coup il faut pas courir super vite. Il y a quand même quelques passages où voilà, faut quand même un peu courir vite. Malheureusement, il y a des passages en route forestière, donc c'est les passages les moins marrants et qui m'amusent le moins. Mais sinon, en fait, c'est une course avec des petits singles où t'es obligé de marcher et à très haute altitude. Donc pour t'entraîner à ça, qui est mi-juillet, qu'est-ce que je dois faire? Bah du coup, je dois essayer d'aller le plus haut possible en montagne, pas trop vite, pour m'entraîner et m'éclater. Donc du coup, ça veut dire que bah je peux continuer mes entraînements sur le glacier, ma saison de ski alpin encore plus longtemps au beau jour. Je peux me barrer avec mon vélo, avec mes skis sur le sac, et puis aller me faire le dôme des glaciers, ou aller au Mont Blanc, ou aller voir des écrins. Pour moi, c'est même pas de l'entraînement, quoi. C'est juste, ça doit être dur l'entraînement. Non, enfin, c'est pas dur, c'est juste hyper plaisant. Donc, du coup, pour moi, quand tu mets la Hard Rock au calendrier, je me dis, putain, les 6 mois pré-Hard Rock, ça va être du bonheur, ça va être trop bien, quoi.
Ouais.
Et c'est ça qui me fait, ce qui fait que j'ai envie, enfin, tu vois, c'est pas le secret de la longévité, mais c'est ça qui fait que j'ai envie, et que ça perdure, et que c'est génial. Et je me dis, putain, là, si j'arrive, tu vois, si Jim, je m'entraîne avec, si tu connais, un Américain, là, qui s'appelle Jim, là, qui essaie de faire un peu l'UTMB, je me dis, s'il arrive à passer un peu son UTMB, là, dans l'année qu'il y a ou l'année d'après, après, potentiellement, tu vois, on prépare ensemble une Hard Rock ou des trucs comme ça, ça peut être super marrant, super kiffant.
Ouais.
Du coup, je me dis, putain, si dans 2 ans, je me remets une Hard Rock au programme, par exemple, putain, ça peut me refaire un hiver super bien, tu vois. Ça fait des années que là, j'arrive de faire le Tour des Géants. Bon, là, avec ma blessure, c'est peut-être pas l'année la plus intelligente pour le mettre, mais tu vois, si je me dis, putain, là, si j'arrive à me le mettre l'an prochain, tu vois, là, ça me laisse 1 an et demi pour me préparer un truc encore plus long, encore plus, un peu stupide. Et voilà, 24 000 mètres de dénivelé, 330, il y a un truc assez marrant, quoi. Donc là, je me dis, putain, ouais, mais comment tu peux te lasser de ça, quoi? Enfin, c'est pas la longévité, il n'y a pas de secret, c'est juste, tu te mets un truc qui te fait vraiment kiffer, vraiment rêver. Bah, du coup, t'y vas en courant, quoi. T'avances comme ça, d'objectif en objectif, et voilà, c'est des trucs qui sont géniaux, quoi. Et tu vois, d'essayer de te re-challenger, de trouver des choses qui ont du sens pour toi, tu vois. Je fais pas une course parce que j'ai fait un pari avec un copain, je fais une course parce que, putain, au fond de moi, ça me prend les tripes, et c'est quelque chose de génial, quoi.
Ouais. Je te demandais juste avant qu'on commence, pourquoi tu courais si peu. Tu vois, quand on regarde un peu ton palmarès, tes courses, on voit 2-3 courses par an, grand max. Là où certains autres athlètes vont s'en faire plein, tu vois, alors peut-être avec des gros temps forts. Et j'ai adoré ta réponse. Tu vois, j'ai beaucoup aimé ce que tu m'as dit. Alors, je sais plus si tu t'en souviens, mais tu me disais qu'il y avait une part que t'aimais beaucoup, respecter la saisonnalité et aussi respecter l'impact que ça peut avoir sur la planète.
C'est une des raisons principales. Après, il y a aussi le fait que, on parlait du marathon, tu vois, les grands marathoniens, ils ont toujours essayé d'analyser, tout scientifiser, machin, et de dire, finalement, ils arrivent à être performants au mieux à deux fois par an, quoi. Et donc, les mecs, ils courent 2h30. Et 2 heures, quoi. Et donc là, tu te dis, nous, on courrait 24 heures, et par contre, on arriverait à être performant 6 fois par an. Enfin, il y a un moment, en fait, pas surhomme non plus, quoi. Donc, faut être un peu logique sur ça. Donc voilà. Et c'est vrai qu'avec Jean-Michel, depuis maintenant quasiment, 14 ans, tu vois, on s'est toujours fixé maximum 2 à 3, surtout sur ultra, 2 objectifs. Et sur les plus courtes distances ou intermédiaires, peut-être 3 objectifs dans l'année, avec potentiellement, tu vois, 1 ou 2 courses de préparation. Mais c'est vrai que du coup, c'est pour ça aussi que je cours pas tant que ça. Et parce que du coup, tu vois, de ces 10-15 ans d'expérience aussi, j'ai vu beaucoup d'athlètes passer, des athlètes surdoués, très 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 forts, mais qui du coup couraient énormément, et puis du coup qui disent, ouais, mais c'est pas intense, ouais, mais oui, c'est toujours facile, t'as toujours à faire une place, oui, c'est sûr, forcément, hein. Mais pour combien de temps, quoi? Puis est-ce que tu sais si ton corps y récupère et comment ça passe? Et puis tu vois, les plus doués, ça durait 2, 3, 4, 5 ans, et puis après ça a disparu. Et finalement, des athlètes qui sont là depuis 10 ans, tu vois, à pratiquer l'ultra, et qui ont arrêté par choix, et pas par blessure ou par lassitude ou par burn-out ou par ça, finalement, il n'y en a pas tant que ça, malheureusement. Et donc ça me fait de la peine, et c'est aussi ça le rôle un petit peu que j'essaie d'avoir. Mais quand on me demande pourquoi ou quelle image tu veux donner, pourquoi toi tu cours peu, tout ça, j'essaie d'expliquer aussi ça, de dire faut aussi prendre soin de soi. Et moi, ça me fait de la peine quand je vois un athlète qui est vraiment mal parce qu'il peut plus courir et qu'il en rêverait, et tout ça parce qu'il y a un moment, finalement, il s'est pas rendu compte que personne n'a réussi à le freiner. Donc c'est aussi le rôle, tu vois. Voilà, moi je suis avec pas mal de managers, tout ça, et des fois je suis un petit peu effaré ou pas très pédagogue, tu vois, en disant non, en fait, c'est pas que je vais avoir raison ou machin, c'est juste qu'il y a un moment, en fait, ouvrons les yeux, quoi. Et puis y a le temps, quoi. Ça sert à rien de vouloir faire 6 courses dans l'année. Après tu vas faire quoi l'année d'après, quoi, si tu fais tout la première année, quoi. Ouais. Puis les gens, ils me disent, ouais, mais moi j'ai attaqué à courir il y a 6 mois, j'aurais fait l'UTMB l'an prochain. Je dis, ah ouais, c'est bien. Moi, il m'a fallu 10 ans pour faire mon premier UTMB. Donc toi, si tu arrives en un an, tant mieux. Hein, mais moi, il me semblait que j'avais aussi des capacités, donc ça me paraît bizarre, quoi. Ouais. Mais bon, je dis pas qu'il y arrivera pas, mais quel dommage. Et puis il va faire quoi derrière, quoi? Si t'attaques le trail un an et demi après, tu fais l'UTMB au diagonale et que c'est ton rêve le plus ultime, du coup tu fais quoi après, quoi? T'arrêtes tout, tu changes de sport et tu passes à autre chose, quoi. Et donc ce truc. Consommation de soi, de son corps, de ce sport, je trouve c'est un petit peu dommage, et moi j'aime bien prendre le temps de faire les choses.
Ouais.
Et puis après, c'est pareil aussi écologiquement, si tu fais 7-8 courses par an ou t'en fais 2, c'est forcément pas le même impact. Alors forcément, le mieux pour pas avoir d'impact, c'est très facile à critiquer, hein, ce serait de rien faire et puis de faire aucune course et aucun événement, parce que forcément, qui dit événement dit impact. Après, d'en faire 10 ou d'en faire 2, ça a quand même pas tout à fait le même impact. De choisir quels événements tu fais, quels événements sont sensibles ou pas à la chose, et puis de t'entraîner en fonction de ces événements là c'est avec moi, j'essaie de choisir des événements qui respectent à minimal, tu vois, ma saison et mes conditions d'entraînement, pour pouvoir la priorité pour moi, c'est pouvoir m'entraîner depuis chez moi et de m'entraîner avec les conditions actuelles. Donc aujourd'hui, je vais pas aller faire un championnat du monde ou un championnat de France, tu vois, en février ou en mars, alors que c'est la pleine saison hivernale et que je peux pas m'entraîner pour ça, quoi. Donc aujourd'hui, quand je choisis une course en altitude, et que je choisis la Hard Rock, elle est mi-juillet, ça me laisse quand même, tu vois, mai, juin, tout début juillet pour m'entraîner à cette course-là. Ça paraît logique de pouvoir s'entraîner, tu vois, autour de chez moi. Maintenant, si je dois aller faire une course, parler tout à l'heure de la Barclay qui vient d'avoir lieu, des choses comme ça, tu vois, c'est des courses qui ont lieu mi-mars, s'entraîner pour une course de plus de 10 000 mètres de dénivelé mi-mars chez moi à pied, c'est pas possible. Donc ça veut dire que tous les jours je dois descendre à Albertville ou à Chambéry pour m'entraîner, tu vois, sur des mini montées, parce que en haut il y a de la neige. pour moi, c'est pas respecter la logique de la saisonnalité. Mmh. Et aujourd'hui, voilà, j'essaie de tenir compte de ça pour la raison aussi que ça me fait du bien de changer de sport, musculairement, sportivement, mentalement, ça me régénère, tout ça. Donc voilà, j'essaie de... Puis je trouve que j'ai encore plein de défis à faire l'été. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que j'essaie de de pas courir plus que de mesure, et puis de d'essayer de prendre soin un petit peu de moi, de mon environnement, de mon corps, des gens qui m'entourent aussi, quoi. Et voilà.
Bah, bravo pour ça, tu vois, d'arriver un peu à te contenir, parce que j'imagine que ça doit quand même démanger un peu, tu vois, de tester un peu ce genre de course un peu fanatique où tout le monde te titille un peu dessus, et qu'il y a peut-être un moment où t'as envie de dire bon, les gars, c'est bon, j'ai compris, je vais la faire une fois, comme ça vous allez me laisser tranquille. Mais tu vois, je trouve ça humble, tu vois, et aussi ça montre aussi, tu vois, ta force de caractère sur par rapport à tes convictions, donc j'admire beaucoup ça, tu vois.
C'est gentil.
Beaucoup auraient pu craquer pour différentes raisons, comme beaucoup des gens qui te suivent cette année. Tu es en convalescence, tu as pu skier un peu, comme tu le disais, tu m'as avoué que tu retrottais un petit peu. Quand j'ai demandé aux auditeurs extraterriens, tu vois, quel sujet il fallait parler, c'était le programme de l'année 2023, on veut tout savoir sur François. Et là tu me dis oula. Attends, il y a rien à dire, le médecin il a dit on fait rien. La question que j'avais un peu par rapport à ça, c'est la première fois que tu es face à une blessure aussi longue ou une convalescence aussi importante.
Bah ouais, clairement. Ouais. Depuis que j'ai un peu attaqué le trail, on va dire, j'ai jamais vraiment été blessé. Quoi.
Ouais.
Bon, autant en athlète, tu vois, j'avais des petites gènes, des petites douleurs, tu vois, qui faisaient modifier un peu les entraînements. Autant en trail, en fait, j'ai jamais eu ça, parce que si je sentais quelque chose, j'allais modifier mon entraînement, j'allais faire plus de vélo ou de l'alpi ou de la montagne ou du ski, ou j'estimais que c'était le moment de me reposer. Donc tu vois, j'ai toujours vraiment été beaucoup plus à l'écoute de mon corps. Ouais. Ce qui surprend un peu les gens, en disant mais sur l'ultra, comment vous faites pour machin, par rapport à moi qui prépare marathon ou 10 bornes. Moi je trouve pas, du coup je trouve que c'est plus facile. Enfin, moi j'arrive beaucoup plus à prendre soin de moi, m'écouter, être à l'écoute de tout ça, et donc là oui, clairement c'est la première fois où je suis face à quelque chose. Bon, je vais en apprendre, hein, je vais en retirer tout ça, mais c'est vrai que voilà, il y a eu pas mal de choses là qui sont passées depuis le mois de juin, tu vois, où j'ai eu cette petite blessure avant l'Hard Rock là que j'ai pas pris en considération, quoi. Ça a fait un petit impact, un œdème osseux, et clairement je pensais pas du tout que ça avait pu, tu vois, taper l'os et faire cet œdème osseux et fragiliser un petit peu mon corps, et puis ensuite tu vois, il y a toute une spirale un petit peu qui m'a amené justement à cette fracture là au mois de novembre. Clairement, j'ai une fracture trimaléolaire, donc c'est quand même une très très grosse fracture avec une opération chirurgicale, de l'ostéosynthèse, tu vois, j'ai du matériel, j'ai des vis, j'ai une plaque. Donc voilà, la chirurgien arrête pas de me dire que il a dû prendre un fragment d'os, le retourner, le revisser, tout ça.
À
une zone qui est pas forcément facile, quoi, la cheville. Le but, c'est surtout de pouvoir te permettre de pratiquer encore et longtemps ta discipline. Donc, c'est pas d'être à tout prix sur une course là dès que possible, et puis derrière d'être fracassé et de pas pouvoir la pratiquer à long terme. Et en l'écoutant, je pense que je suis tout à fait en accord avec lui, même si ça me démange un peu, même si oui, j'ai envie de me retrouver, tu vois, un vrai objectif qui me fascine et de pouvoir m'y remettre et d'avoir du concret. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a raison. Il me dit, voilà, là, dans un premier temps, ça sert à rien de vouloir te fixer des objectifs. De toute façon, si t'es en forme, les objectifs viendront tout seuls, tu les trouveras, et puis t'arriveras à t'inscrire, et puis tu seras là dès que possible. Donc ça peut potentiellement être cet été, hein, sans aucun souci selon lui, mais potentiellement s'il y a une gêne entre temps, s'il y a quelque chose qui se passe mal, si le matériel finalement peut nous embêter ou des choses comme ça, on essaie de vraiment tout analyser pour faire en sorte de surtout pas surcompenser ou d'apporter des gènes que je pourrais payer soit en fin de saison, soit dans les années à venir, et donc d'être encore plus à l'écoute de moi. Donc le programme 2023, pour l'instant on n'a pas voulu en mettre parce qu'il va falloir se réadapter en permanence, mais j'ai pu reprendre le ski de randonnée bien avant que prévu, j'ai pu refaire du vélo, je peux refaire du vélo pour l'instant, pas dehors parce que ça caille un peu trop. En centre de rééducation, j'ai pu refaire vraiment des bonnes séances et tout ça, donc j'arrive à retrouver quand même un semblant de forme physique. Donc maintenant il va falloir remettre en charge progressivement, remettre la contrainte avec la course à pied, ce qui est pas facile.
Tout doucement, quoi.
Mais je pense que j'essaie de bien m'entourer, d'avoir les bonnes personnes autour de moi, de faire les choses particulièrement. Donc ouais, j'espère qu'il y aura une saison 2023. Et voilà, mais en tout cas, bah voilà, il y a certains objectifs que j'avais pour cette année que je vais sûrement postponer à l'an prochain.
Ouais.
Pour 2023, on essaiera de bah de faire au mieux et puis d'essayer de retrouver les sentiers d'aigle possibles, quoi.
Ouais. Bah écoute, moi j'en doute pas une seule seconde, tu vois. J'ai vu tellement d'athlètes, tu vois, être capable de rebondir là où des fois des médecins leur disaient tu marcheras plus, tu feras plus de sport. Tu vois, je pense à Kevin Roland, mais je pense aussi à Caroline Colombo que j'ai eu récemment en biathlon. Voilà, enfin il y en a tellement, tu vois. Et je trouve que les athlètes et encore plus les athlètes de haut niveau ont cette capacité, leur corps a une capacité à se régénérer et à revenir au plus haut niveau et souvent encore plus fort que je doute pas que ça soit le cas une seule seconde, quoi. Donc et puis au pire c'est pas cette année, comme tu l'as dit, on a le temps, ce sera l'année prochaine, on attendra s'il le faut un peu. Est-ce que par rapport à ça, tu vois, merci pour la transparence de ta réponse. J'imagine que c'est un sujet qui peut porter à réflexion, mais c'est un nouveau. J'ai l'impression que tu vois beaucoup de choses comme des nouveaux challenges, des nouvelles opportunités. Du coup, un peu la question que je voulais te poser, c'est comment t'as transformé ça en opportunité pour toi, pour ta vie perso, pour ta curiosité intellectuelle. Comment est-ce qu'on s'occupe du coup quand on libère 4, 5, 6 heures par jour?
Bah non, du coup, bah, je suis presque même encore plus occupé qu'avant, parce que non, mais du coup, il faut aussi que je passe quand même pas mal de temps en kiné pour gagner en amplitude, donc passer pas mal de temps en centre de rééducation à Cap-Breton aussi, tu vois. Là, je vais attaquer un troisième séjour là-bas, donc tu vois, ça fait partie. Okay. Là, ça fait quand même. Et puis bah ouais, pour la kiné, on essaie d'y aller autant que possible, quoi. Donc tu vois, j'ai 4 à 5 séances plus les séances que je fais à la maison, plus au début, tu vois, il fallait tout le temps que je glace, que je mette de la pressothérapie sur mon pied, donc ça me prenait quand même vachement de temps.
Ouais.
Et puis tu peux pas faire des longues sessions, donc tu dois faire des petites sessions, donc toi, les journées où ouais, t'attaques par une heure de vélo, après j'essaie d'aller faire un petit peu de spécifique, après je fais un peu de ski, après tu vas chez kiné, entre temps faut refaire la glace, faut remettre ça, faut quand même un peu t'occuper des enfants. Après, tu vois, ça finalement ça prend quand même pas mal de temps, et puis de manière un peu moins plaisante, que tu dois simplement construire ton entraînement et te faire plaisir en montagne, quoi. Donc c'est plus raisonné, un petit peu différent, quoi. Donc voilà, c'est, on va dire que j'ai pas forcément plus de temps libre, quoi.
Ouais, j'imagine. Bon, en tout cas, c'est un nouveau challenge, et j'imagine que t'apprends beaucoup sur toi, sur le corps humain de manière générale, et que ça te fait progresser d'une manière ou d'une autre, je suis sûr.
Oui, non, je pense. Après, faut essayer de positiver, de voir les opportunités, de voir un petit peu toutes ces choses-là. Tu vois, on pensait pas du tout que je pourrais vraiment reskier cet hiver. Et puis finalement, tu vois, on a découvert avec le chirurgien que ça se passait pas si mal. On y allait vraiment progressivement. Tu vois, j'ai bien tenu au courant. Le kiné était vraiment à mes côtés, les médecins du sport aussi. Tu vois, donc on a vraiment essayé de se dire, bon, bah, voilà, finalement, le ski de rando, ça a l'air de bien se passer. Et puis finalement, tu vois, on s'est mis à, il y a une course là dans le village qui s'appelle la Pyramenta, que je faisais, tu vois, depuis 14 ou 15 ans. Et du coup, c'était la première année, tu vois, que j'allais pas forcément la faire. Et finalement, bah, on s'est dit, bah, pourquoi pas être au départ. Alors, c'est sûr que oui, en descente, je pouvais pas vraiment skier comme je skie d'habitude. Il fallait faire très, très attention. Tu vois, tous les après-midi, je glaçais à fond. J'essayais vraiment de, tu vois, de prendre soin de ma cheville le plus possible, tout ça. Mais finalement, j'ai pu être au départ. Et puis, bah, du coup, j'ai pu la faire avec ma femme, parce que on n'aurait jamais imaginé tous les deux, déjà de la faire ensemble. Et puis, elle pensait jamais, tu vois, la faire forcément un jour. Et finalement, bah, tu vois, on l'a vécu ensemble. C'était super marrant, c'était super sympa. Dans le village, tu vois, on avait vraiment eu du soutien des gens, et c'était super marrant de partager un petit peu ça. Et du coup, tu vois, bah, ça lui a donné confiance, ça lui a montré aussi ça. On a vécu ça ensemble, les enfants étaient trop contents, quoi, tu vois, de voir que leur maman aussi, elle pouvait faire ce genre de truc. Donc, tu vois, on va dire que voilà, c'est clair que c'est quelque chose que j'aurais même pas imaginé un jour comme ça. Donc finalement, ouais, tu vois, ça fait autre chose, quoi.
Nouveauté. Ils ont quel âge, ces enfants?
Ils ont 9 ans, 8 ans et 3 ans.
Ok. Tu les mets au sport, j'imagine?
Ouais, bon, ils ont pas bien le choix, quoi. De toute façon, ici, tous les enfants dans le coin sont quand même assez sportifs, quoi. Tu vois, ils sont toujours dehors. Bah, les hivers, tu vois, ils font beaucoup de ski. Ils font un peu de VTT à la saison. Aux intersaisons. Et puis, les saisons estivales, ils vont se balader avec nous. Ils font du vélo, ils vont à la piscine. Voilà.
Ok. Ils te demandent un peu des questions sur le haut niveau, sur l'ultra, ils ont une certaine curiosité par rapport à ça? Ou ouais, c'est le, tellement ancré dans
ouais,
leur quotidien.
Ouais, c'est ça. Que... Je pense qu'ils se posent pas tant de questions que ça parce qu'ils connaissent, en fait.
Ils sont là. Ils sont encore jeunes, quand même.
Ils sont là, ils se promènent avec moi. J'essaie quand même de les emmener, tu vois, pas tous les ans, mais régulièrement, tu vois, sur une course avec moi, de vivre un petit peu les choses. Et puis voilà, ils s'intéressent. Ils sont assez curieux, donc ils s'intéressent quand même bien à la chose. Ouais. Et ils le font un petit peu à leur sauce. Mais tu vois, c'est plus les gens autour d'eux qui leur posent des questions, qui comprennent pas tout. Enfin, toujours comment ils vivent, ils ressentent le truc, tout ça. Mais eux, je pense qu'ils me considèrent plutôt comme quelqu'un de tout à fait normal, un peu normal, que plutôt comme un sportif un peu bizarre.
Ouais. T'es quel type de papa, du coup? Tu les laisses vadrouiller 3 heures dans la nature et tu leur dis à moi en revenir en un seul morceau, ou au contraire, tu fais attention un peu?
Non, tu... on essaie de faire attention. Après, c'est vrai qu'ici, c'est quand même un environnement assez particulier, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu fou.
Mais en fait, on se dit que c'est particulier.
De se balader ou de faire des choses, ou voilà, mais c'est qu'ici, en fait, tout le monde se connaît, donc tout le monde, enfin, tu vois, si tu vois l'enfant de quelqu'un d'autre en train de faire une bêtise, tu vas aller lui dire, ou enfin voilà, tout le monde se connaît, en fait, tout le monde prend un peu soin des enfants des autres. Ouais. Voilà, j'ai un peu moins peur de les laisser traverser la route quand il y a une voiture toutes les 2 heures que si t'es sur le périph. donc voilà, non, après voilà, on essaie de faire attention, mais c'est vrai qu'ici ils sont quand même un petit peu plus dehors et livrés à eux-mêmes dans les forêts, dans les champs, qu'à d'autres endroits, quoi, clairement.
Ouais, ouais, tu sens que c'est les épanouit, quoi.
Ouais, puis ouais, c'est la manière de vivre ici, quoi. Donc on va dire qu'ils ont pas trop le choix de ça, quoi. Tu vois, c'est même si t'habites, ne serait-ce que, tu vois, on parlait d'Annecy tout à l'heure ou de Chambéry ou tout ça, tu vois, tu te dis t'as la chance de pouvoir aller skier avec tes parents tous les week-ends et des fois le mercredi, c'est déjà beaucoup, quoi. Et ici, ouais. Ici, des fois, il y a des semaines, ils ont ski de fond 2 fois avec l'école, plus 1 fois ski de piste avec l'école, et ils ont 3 jours de ski club. Donc au final, ils skient 6 fois dans la semaine. Donc en fait, ils sont habitués à ça. Puis dans la cour, de toute façon, tout ce qu'ils font, c'est des glissades ou les trucs comme ça. Donc forcément, ils ont un toucher de neige, ils ont ressenti, ils ont des trucs qui sont, c'est un peu incroyable, quoi.
Ouais. Tu penses qu'ils vont aller plutôt sur ces sports-là? Sur les sports de glisse ou...
Ouais, non, parce que l'hiver, ils adorent se balader aussi. Après, ils font bien ce qu'ils veulent. Enfin, nous, on les pousse pas forcément. Ce qu'on veut, c'est qu'ils s'amusent et qu'ils prennent du plaisir. Après, s'ils veulent le pratiquer de manière intense ou pas, ils seront bien assez grands pour le faire, quoi. Justement, on essaie vraiment de faire gaffe, justement, de pas être trop derrière et les pousser. Parce que tout le monde est déjà, tu seras un peu un champion comme papa. Gna, gna, gna. Du coup, on essaye de calmer un petit peu le truc et justement d'essayer de pas trop leur mettre la pression, parce surtout le deuxième, il se la met déjà beaucoup tout seul.
Ouais, il y a tellement de messages subliminaux qui passent dans leur petit cerveau en construction, que c'est vrai qu'il faut pas les surcharger, quoi, parce que...
Tu vois que ton gosse de 3 ans, il tourne autour de la maison et qu'il essaie de faire des ravitaillements, bon, tu te dis, bon, là, même si on l'a pas poussé, il est déjà un peu contaminé, le pauvre gosse.
Ouais, mais moi, j'ai pareil avec le mien, là, 3 ans, il fait des pompes, il fait des squats, il va courir, et dès que je regarde un documentaire de sport, il vient se mettre à côté de moi, dès que je sors mes micros, il joue avec, enfin, c'est fou à quel point ils essaient de copier. Il sera où, François, dans 10 ans?
Bah, ça, c'est une bonne question. J'espère que je serai toujours un peu dans les montagnes à skier, à courir, à me balader.
Un peu perché, alors.
Voilà, ouais.
Au sens qu'on veut figurer.
C'est ça.
Ok.
Non, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que je me lasse de tout ça. Après, peut-être que je le découvrirai, je le pratiquerai peut-être de manière un peu, je sais pas, peut-être avec moins d'intensité, ou peut-être plus, ou j'en sais rien, à voir un petit peu comment les envies évoluent.
Ok. Ouais, tu te mets pas du tout de pression par rapport à ça?
Non, après j'ai encore plein de défis, plein de challenges qui s'ouvrent à moi, qui me tentent, donc voilà, on va essayer de voir un petit peu comment le corps réagit à tout ça, et puis les opportunités aussi que j'ai dans ma vie sociale avec les enfants aussi autour, pour essayer de prendre en compte tout ça, quoi.
Ouais, ok, ça marche. Alors, il y avait une question que j'ai essayé de caler pendant notre échange. La question, c'était que on voit quand on demande. D'ailleurs, j'ai demandé un peu à Jean-Michel. Je dis, il est toujours calme, François. Il y a rien qui l'énerve. Il me fait ouf. Je te dis pas. et c'est vrai que tu vois, on te voit toujours très posé, très serein, très calme. Et je me suis dit. Toutes les montagnes ont un versant nord. Et du coup, j'avais envie de te poser la question, mais vraiment avec beaucoup de bienveillance et d'humour. Qu'est-ce qui t'énerve dans la vie, François?
Bon, y a plein de trucs. Hein. Non, après, on me voit calme, on va dire, dans ma dans un certain côté de ma pratique, quoi, et dans le côté public, on va dire, de ma pratique, parce que aussi c'est mon métier, donc c'est aussi mon rôle, hein, de montrer, enfin, voilà, de pratiquer avec une certaine, c'est pas une certaine aisance, mais tu vois, avec un certain détachement, et justement, d'essayer de renvoyer une bonne image, essayer de, tu vois, si je veux être performance ultra, faut aussi que je fasse les choses un petit peu calmement, posément, faut pas qu'il y ait de stress à chaque ravitaillement, et d'avoir l'impression de retourner la terre entière et d'insulter tout le monde, sinon ça marche pas, enfin, tu vois. Donc voilà, ça c'est.
Il y a vraiment des trailers comme ça.
Je pense que ouais, beaucoup. Si tu peux regarder un peu les ravitaillements, ça révèle assez vite le truc. Et oui. Voilà, donc moi j'essaie de pas détacher. J'essaie de justement d'être à l'écoute de tout ça et de montrer ce côté-là un petit peu au public. Après non, je suis pas forcément un tempérament très calme. Hein. Je m'énerve assez vite, bêtement, sur deux trois trucs. Dire que clairement, tous les appareils là avec lesquels tu joues, et les informatiques, et les téléphones, et les machins, et les formats des trucs, et les verticales, et les machins qu'il faut convertir ou transférer avec le Wi-Fi d'ici qui marche une fois sur 15, et les trucs comme ça. Tu vois, ça, c'est le genre de truc qui, quand ça marche, ça m'amuse. Ouais. Mais dès qu'il y a le moindre petit truc, ça assez vite tendance à m'excéder, quoi.
Ça dépend plus de toi.
C'est pas trop mon truc, quoi. L'informatique, les machins, ouais, tu vois, quand l'ordinateur est tombé en panne ou des trucs comme ça, c'est pas très patient, ouais.
Bah, ça, en l'occurrence, ça tombe jamais en panne, mais c'est pour ça que je prends ça, mais je peux comprendre. Mais de toute façon, maintenant, j'espère que, enfin, tu te fais accompagner, non, pour tous ces trucs-là.
Oui, j'essaye un petit peu, mais bon, après, même si tu te fais accompagner, en fait, c'est qu'on dit tout à l'heure, en fait, ta zone de confort, elle s'élargit, mais du coup, t'accèdes à des trucs encore plus sophistiqués, encore plus compliqués, et tout ça, et finalement, bah, il faut, même si j'arrive à me faire aider, justement, tu vois, par Jean-Michel, sur tout ce qui est côté relations, presse, médias, tout ça, donc t'arrives à finalement faire des choses qui sont encore plus extraordinaires, et pareil sur les réseaux sociaux, donc après, bah, c'est à toi aussi d'être un petit peu au bout du jour et tout ça, donc voilà, clairement, ça me sort un petit peu de ma zone de confort, tu vois, s'il faut aller faire un média day sur Paris, voilà, bougeant 15 000 fois d'endroit et trucs comme ça, voilà, je suis pas hyper à l'aise avec tout ça, quoi.
Ouais, moi je peux.
Mais bon, j'en ai déjà fait plusieurs et oui, non, ça va quand même bien mieux, mais c'est vrai que t'es toujours amené à découvrir des choses un peu différentes,
ouais. Ouais, bien sûr. Ok, bon, bah, on aura eu le scoop de ce qui m'a énervé, François. Vous lui mettez.
Non, pas toi, par exemple, je pense que j'aurais pas du tout la patience d'être dans les bouchons tous les matins, quoi, tu vois.
Ouais.
Mais bon, t'as pas le choix, hein, mais c'est juste que voilà, moi j'ai choisi justement aussi de vivre ici pour avoir pas avoir ce stress là, tu vois, au quotidien et tout ça. Il y a pas que des avantages, hein, mais pour moi, voilà, c'est juste une manière de vivre un peu différente, quoi.
Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que tu vois, je te parlais effectivement de mes volontés de me rapprocher des montagnes, parce que c'est là d'où je viens, mais au-delà de ça, tu vois, il y avait aussi la réflexion de se dire d'éviter ce que je contrôle pas, et une grosse part de mon stress, il vient du monde extérieur, tu vois, et de la ville dans laquelle je suis en ce moment. Et du coup, ouais, il y a un truc de, je suis pas assez fort, je suis pas Bouddha, je peux pas me calmer, et je suis pas le Dalai Lama, je peux pas me calmer dans les bouchons au bout de 2 heures. Donc, mieux vaut ne pas avoir de bouchons, en fait. C'est comme ça qu'on résout le problème. Mais je pensais que tu me donnerais la solution, François.
J'avoue, j'ai du mal avec ça. Ouais.
D'ailleurs, ouais, en parlant de ça, tu médites un peu, ou tu fais un peu de prépa mentale, un peu de visualisation, t'as des petits exos un peu comme ça. Je sais que je parle très souvent prépa mentale avec tu vois, les athlètes, on va dire, un peu plus sur des sports olympiques, puisque maintenant ils sont un peu obligatoires. Mais quid de toi en ultra?
Bah, bon, préparation mentale, ma méditation, ma récupération, tout ça, je le fais pendant mes entraînements. On va dire que ça doit se faire de manière automatique. Non, mais après, voilà, on va dire que oui, je fais pas de, en plus, tu vois, ni de préparation physique, trop de renforcement, je fais pas trop d'étirements plus non plus. En fait, si j'ai le choix entre faire 6h30 de sport et puis 1h30 de tout ça, bah je vais faire 8h de sport plutôt, quoi. Et puis après, il y a un fait aussi qui fait que, bah, déjà quand tu t'accentes 4-5 heures de chez toi, quand tu rentres à la maison, bah si tu commences à dire bah non, là faut que j'aille me prendre mon petit complexe, que j'aille faire ça, que j'aille prendre mon machin, non, en fait tu rentres à la maison,
C'est les enfants.
Tu te changes en deux secondes, tu t'occupes des enfants, et puis où t'as d'autres activités, tout ça, mais après, comme tu dis, moi, je pourrais réduire mon entraînement, tout ça, mais déjà, en fait, à la maison, c'est pas hyper propice pour faire tout ça quand t'as des enfants autour de toi. Et puis, en plus de ça, c'est pas trop mon délire, mais voilà, bon, en fait, ma relaxation, mon yoga, ma méditation, tout ça, ça se fait tout seul ça me dérange pas, tu vois, de sortir tout seul sur les arêtes. Comme je te disais, j'écoute pas forcément ni de musique ni de podcast quand je pars courir. Moi, je suis vraiment à l'écoute de la nature et de mes sensations, et donc j'aime bien aussi être tranquille. Et c'est à ce moment-là, je pense, que du coup, bah, il y a toute cette période de prépa, de visualisation, de ressenti, tout ça qui se fait automatiquement, quoi, je pense.
Ouais, bien sûr, ouais, c'est sûr. Je pense que tu utilises ce temps-là est utilisé naturellement par le cerveau pour se projeter, construire et se reposer. Le temps file et j'avais promis de te libérer. J'ai deux petites questions que je pose un petit peu à la fin. Je t'ai pas briefé d'ailleurs avant pour les réponses, mais t'inquiète pas, il y a aucune surprise. La première, c'est est-ce que il y a un livre, un film, un documentaire, un contenu que tu pourrais recommander aux auditeurs, parce que toi, ça t'a appris quelque chose, ça a changé un peu ta façon de voir les choses. Ça peut être sur ta paternité, sur la performance, sur l'écologie, sur la beauté de la France et de ses paysages. Est-ce que ouais, tiens, t'as une lecture à recommander que tu recommanderais à tout le monde, tiens?
Non, on va dire la plus belle recommandation que je puisse faire, c'est justement de prendre son sac à dos et puis de partir plusieurs jours sur un sentier mythique des Alpes ou d'ailleurs. Mais voilà, pour moi, je pense que c'est là où t'apprends le plus, et puis potentiellement de partir aussi en groupe, tu vois, ou en famille, pour pouvoir justement apprendre sur soi, tu vois, à travers les autres, des choses comme ça. Et voilà, moi, c'est plutôt ça que je recommande, c'est de partir un petit peu à l'extérieur, justement, s'évader, tu vois, oser aller faire des choses qui nous paraissent un petit peu impossibles, mais même en le faisant doucement, tu vois, et d'aller justement découvrir ce genre de trucs, quoi.
Ok. Et t'as pas lu, toi, de bouquins de trailer ou d'aventurier et tout? C'est pas une source d'inspiration?
Si, j'essaie d'en écrire un, là. Okay. Depuis un petit bout de temps, et ça fait plusieurs années avec Jean-Michel, justement, qu'on en parle, et que j'ai pas trop envie de me lancer dedans, parce que voilà, ce que je voulais, c'était, toi, quitte à faire un livre, c'était vraiment partager, tu vois, une vraie expérience, essayer d'apporter, tu vois, quelque chose aux gens, pas juste raconter, tu vois, ma vie et mon truc et mes courses, quoi, tu vois. C'était plutôt essayer de montrer un petit peu ce que m'apportait justement l'ultra, la façon dont je le pratiquais et comment justement ça pouvait m'apporter quelque chose au quotidien et pourquoi je le faisais, quoi. Et donc, aussi, ouais, j'en ai lu plein des livres, mais j'aime bien, enfin, tu vois, déjà, je m'endors assez vite. Donc ça me dure assez longtemps, les livres. Mais non, j'aime bien, tu vois, des histoires, enfin plutôt des mondes que je connais pas trop, ou que j'ai essayé d'apprendre et connaître. Donc je lis beaucoup de livres sur la haute montagne, tu vois, sur l'alpinisme, des trucs un petit peu comme ça. Enfin, beaucoup, je lis quelques livres là-dessus. Et puis après, voilà, je regarde par contre très très peu, enfin, on n'a pas la télé à la maison, et je regarde très peu de films ou de séries ou de documentaires, tout ça. C'est vrai que je passe un peu de temps sur les réseaux sociaux, tu vois, à travers mon ordinateur ou mon téléphone, donc du coup, j'essaie d'éviter un peu tout ça, ouais.
Ok. T'as un bouquin, t'as le pied à me recommander? J'essaie là de faire un cadeau à mon père, là, qui est de préparer le Mont Blanc. Du coup, je cherche un petit peu 2-3 petites ressources, donc si t'as un nom de bouquin, je suis preneur, mais...
Non, franchement, j'ai pas...
Ouais, tu m'enverras une photo. Ça marche. Et la toute dernière question, c'est un peu comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro. C'est de savoir est-ce qu'il y a un athlète que tu me recommandes d'aller interviewer, justement parce qu'il a une vision un peu différente de son sport des autres, et je trouve que c'est un peu ton cas dans l'ultra que t'as pu voir récemment ou pas du tout, ou quelqu'un que tu connais pas et que t'aimerais découvrir un peu sur un format comme ça, tu me recommanderais d'aller voir qui?
Ouais, c'est un peu dur.
Tout le monde est passé par là. Les 200 athlètes qu'on a interviewés ont répondu. Donc, je pense que tu peux y arriver.
Je serai l'exception. Alors, non, mais ouais, non, j'ai pas vraiment de personnes à recommander ou d'idoles ou tout ça. Et en fait, surtout, enfin, c'est le truc que je fais jamais, parce que du coup, je trouve que ce serait en oublier plein. Mais non, je pense que dans chaque sport, en fait, tu vois, il y a des personnalités qui sont complètement différentes. Et en fait, c'est un peu trop personnel pour moi, tu vois, chacun peut admirer tel ou tel athlète dans un sport, tu vois, plutôt qu'un autre. Donc après, chacun trouver en fait l'athlète qui peut le correspondre et, ou qui peut le permettre de se mettre à ce sport-là. Mais voilà, moi, ce que j'aime bien justement, c'est la diversité des sports et des athlètes qu'on peut interviewer et de pas se cantonner justement à un seul sport et pouvoir aller chercher, tu vois, dans chaque sport, dans chaque discipline, des trucs un petit peu différents, quoi.
Ok, je vais poser la question différemment. Quel est le dernier athlète de haut niveau qui t'a fait rire? Beaucoup rire.
Dernier athlète de haut niveau qui m'a fait rire. Bah là, je reviens un peu de Cap-Breton, donc j'avoue qu'on en parlait juste avant. On a parlé de Pierre Ambroise qui m'a bien fait rigoler quand même. Et là, que je connaissais pas autrement que sportivement, tu vois, personnellement. Et voilà. Et bon, là, je l'ai vu dernièrement à Cap-Breton, il m'a bien fait rire. Après, plus localement, je rigole beaucoup avec les, ils sont un peu moins connus, mais avec les skieurs alpinistes du coin ici qui sont vraiment très très marrants là. Il y en a deux là qui vont certainement gagner la Pyramenta la prochaine fois, j'espère. Du moins, ça fait plusieurs années qu'on leur dit qu'il faudrait gagner, donc c'est Xavier et William avec qui je m'entends bien.
Okay.
Et qui sont vraiment marrants et qui ont des bonnes réflexions du coin et qui me font vraiment rire au quotidien. Ouais.
Bon bah écoute, très cool, j'ai envie de rigoler donc...
Je pense qu'avec eux tu passeras un bon podcast. Ouais.
Okay. Est-ce que je viens avec une petite bouteille de rouge ou pas?
Ouais, oui, t'en amèneront, t'inquiète.
Ok, ça roule. Bon bah écoute, merci merci infiniment de la recommandation et puis bah, j'invite les auditeurs qui n'ont pas encore écouté l'épisode avec les deux épisodes qu'on a fait avec Pierre Ambroise, parce qu'effectivement il a la blagounette facile, on va dire. Merci infiniment François.
Avec plaisir.
Pour ce moment, j'espère que c'était un plaisir partagé. En tout cas, moi, je me suis régalé. Et j'allais dire, je t'ai redécouvert. Voilà. Et donc, merci pour ta spontanéité et toutes tes réponses. Et puis, on a une grosse table en bois. Voilà. Donc, je touche du bois pour toi et je croise les doigts pour que tu puisses retrouver le chemin des sentiers. Mais non, c'est pas...
C'est un peu ça, ouais.
Retrouver les sentiers le plus rapidement possible. Ouais. Donc, merci infiniment.
Avec plaisir. Merci à toi.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !